Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le soir du 23 août 1964 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Question et réponse numéro 2 ».
Not the word for the day of Moses. Not the word for the day of Elijah. Elijah was that word for that day.
Amen.
But he was the present tense word.
Amen.
And they were living in the back.
Yes.
The same thing we teach.
Amen.
Yes.
That's the evidence of the Holy Ghost.
Amen.
When God reveals to you and you see it, thus saith the Lord, and accept it. Not what you are, what you was, or nothing about it. It's what God has done for you now.
Amen.
There's the evidence. Jesus said,
premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
We bring to your memory the things that I told you about, and will also show you things that is to come. Don't you see? There's the evidence. That's foretelling, and then having the divine interpretation of the written word. Now, isn't that the evidence of a prophet? A seer in the Bible was a man that could foretell and be perfectly exactly. Not somebody laid hands on him, that's a gift. A prophet is predestinated and born to be a prophet.
Amen.
See? All the whole life it was a prophet. That's the office, that's where the people who made the questions here, oh, well, will the bride, will this, the church, and see, you can't divide what they are. The bride is the elected of God.
Hallelujah.
The church goes to, that's the one that says, whosoever will, let him come. But the bride is the elected of God. There is five offices elected of God.
Amen.
For God has set in the church. Apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists.
Amen.
God did that.
Amen.
Man has deacons and so forth.
Restons debout un instant pour la prière. Ô Dieu bien-aimé, nous te remercions ce soir, premièrement, pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions pour les gens qui croient cela. Nous sommes si contents d'avoir un Dieu, non pas simplement un Dieu imaginaire, une idole imaginaire, un esprit imaginaire. Il n'y a rien d'imaginaire à ce sujet, car c'est un Dieu véritable et vivant, qui vit avec nous et en nous et qui œuvre à travers nous.
Amen.
Sans faire de statue à Dieu, mais nous sommes des images vivantes de Dieu.
Amen.
Le Saint-Esprit ne parlant pas à travers une statue, mais parlant à travers un vase racheté.
Amen.
Dieu manifesté en chair.
Amen.
Combien nous te remercions pour ceci, la grande colonne de feu qui nous suit, ou plutôt que nous suivons, et pour toutes les grandes manifestations du même esprit, accomplissant la même œuvre qu'il a toujours accomplie lorsqu'il était sur la terre. Quelle consolation cela nous donne! Nous nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur, dans aucun autre but que de savoir et d'apprendre comment, avec ton aide, être de meilleurs chrétiens et des sujets plus à la hauteur en vue de l'heure dont nous nous approchons. Ne veux-tu pas nous aider, Seigneur? Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. J'ai reçu encore 30 ou 40 questions de plus. Je ne sais pas comment j'arriverai à toutes les prendre. J'ai fortement essayé de voir cet après-midi si je pouvais même les réduire à un nombre normal, mais je n'y suis pas arrivé. Je veux cependant dire que je vais faire de mon mieux pour répondre à ces questions, parce que ce sont de bonnes questions qui viennent du cœur de chrétien. Je veux certainement faire tout ce que je peux pour y répondre le plus judicieusement possible. Et je veux remercier le Seigneur pour l'aide qu'il nous a accordée ce matin en nous procurant ces questions et en nous en donnant les réponses. Maintenant, je les ai toutes là, mélangées, encore 150, je pense. Et nous en avons vu une vingtaine, je pense, ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais simplement dire que si quelqu'un voulait voir cet article sur « Une église se balance au roulement de la batterie », le pasteur presbytérien ici conduisant son assemblée dans le rock'n'roll, un programme pour le sacrement. Laissez-moi regarder une minute. De jeunes membres se tournent vers le jazz. La représentation de la passion parle de la crucifixion dans un IDIOME moderne, le rock'n'roll. Le pasteur ici conduisant tous les adolescents là-bas, tout en représentant la passion du Christ, la crucifixion étant jouée sur un air de rock'n'roll et de jazz. Eh bien, c'est dans le Maryland. N'est-ce pas quelque chose? Et alors voici la photo de ces... Je vous parlais ce matin de ces Beatles. Le retour des Beatles. Et voilà l'article. Vous devriez le lire dans la revue et voir toutes les différentes choses, comme s'ils avaient fondé une nouvelle religion. Or, leur impresario, j'ai une note ici tirée du journal, vous n'avez pas le temps, si quelqu'un veut lire ceci, ou je peux le mettre sur le panneau d'affichage, vous pourrez alors le lire. Je veux simplement vous montrer que l'heure dans laquelle nous vivons est choquante. Vous ne pouvez peut-être pas les comprendre, mes amis, mais essayez pourtant de saisir ce que sont ces choses. J'ai demandé à Frère Caps, il a une bonne instruction et peut mieux lire que moi, je lui ai demandé de lire cet article de l'impresario des Beatles. Pourriez-vous le faire maintenant, Frère Caps? Il est déclaré ceci. Les Beatles s'interrogent à propos d'eux-mêmes et ne trouvent aucune réponse. C'est incroyable, absolument incroyable, déclare Derek Taylor, l'attaché de presse des Beatles. Voici ces quatre garçons de Liverpool. Ils sont mal élevés, ils sont grossiers, ils sont vulgaires et ils ont conquis le monde. C'est comme s'ils avaient fondé une nouvelle religion. Ils sont complètement antichrist. Je veux dire, je suis tout aussi antichrist. Mais ils sont tellement antichrist qu'ils me choquent, ce qui n'est pas chose facile. Mais je suis obsédé par eux. Tout le monde ne l'est-il pas? Je suis obsédé par leur honnêteté, et les gens qui les aiment le plus sont ceux qui devraient être le plus outragés. En Australie, par exemple, chaque fois que nous arrivions à un aéroport, c'était comme si De Gaulle avait atterri, ou mieux encore, le Messie. Les gens formaient le long des routes une haie continue. Des boiteux jetèrent leurs cannes. Des gens malades vinrent en courant vers la voiture, comme s'ils allaient être guéris pour avoir été touchés par l'un des garçons. Des femmes âgées avec leurs petits-enfants nous regardaient passer. Je pouvais voir l'expression sur leur visage. C'était comme si un sauveur était arrivé, et tous ces gens étaient heureux et soulagés, comme si, je ne sais comment, les choses allaient maintenant aller mieux. Taylor fit une pause et plaça une cigarette entre ses lèvres. « La seule chose qui reste pour les Beatles, a-t-il dit, c'est de commencer une tournée de guérison. » N'est-ce pas ce qu'il a dit? Ce jour-là, beaucoup viendront vers moi et diront, « Seigneur, n'ai-je pas ?» Voyez-vous, maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne pouvez pas placer votre confiance dans des campagnes de guérison? Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans aucun genre de signe comme cela. La seule chose dans laquelle vous pouvez placer votre confiance, c'est dans le « Ainsi dit le Seigneur » venant de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là où j'essaye de vous garder, mes enfants. Et si quelque chose m'arrive et que Dieu m'enlève de cette terre, ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Ne quittez surtout pas cette parole. Tout ce qui lui est contraire, laissez-le tranquille. Peu importe ce que c'est, alors vous savez que c'est juste. Voyez-vous, une campagne de guérison maintenant. Des hommes pécheurs qui ont même choqué leurs propres impresarios par leur vulgarité, leur langage ordurier, leur corruption. Et des gens jettent leurs béquilles et sont guéris en regardant ces garçons. C'était corrompu, souillé et antichrist. Vous voyez, c'est Satan dans un simulacre de campagne. Voyez-vous, il fait tout ce que Christ peut faire. Toutefois, il ne peut confirmer la parole. Voyez-vous, il en faudra une partie ici, une partie là, mais il ne peut la prendre complètement. Il ne peut la mettre ensemble. Ainsi, voyez-vous, ce n'est pas étonnant que la Bible dit que cela duperait presque les élus eux-mêmes, si c'était possible, l'esprit de l'Antichrist. Même leur propre attaché de presse, ici, qui est pour eux, qui croit en eux, dit qu'il est possédé de la même chose parce qu'ils l'ont gagné à leur cause. Ces choses mauvaises, c'est... Maintenant, femme, ne voyez-vous pas pourquoi j'essaie de vous parler du port des shorts, de la coupe des cheveux, etc.? C'est un esprit. C'est un esprit. C'est ici dans nos revues principales, et tout ce qui est présenté parle du rock'n'roll et de ces choses dans l'église. Eh bien, c'est une mise en place parfaite pour Satan, et ce sont toujours des églises et des dénominations. Retournez à la parole, mes enfants, aussi vite que vous le pouvez, et ne prenez surtout pas le risque de la quitter. Restez exactement avec cette parole. Vous voyez comment cet esprit de l'Antichrist peut parler en langue, montrer des signes et des miracles. Il peut guérir les malades. Il peut faire toutes ces choses. Voyez-vous, ces gens pensent qu'ils s'approchent de Dieu et que ces garçons sont envoyés par Dieu parce que l'Église a laissé tomber la parole. Ces garçons appartiennent à l'Église. Elvis Presley est pentecôtiste. Pat Boone est de l'Église de Christ. Regardez ces hommes, pentecôtistes, Église de Christ et tous les autres comme cela, avec ces mauvais esprits sur eux. Red Foley, une voix splendide, Église de Christ, chante les chants religieux comme personne d'autre ne peut les chanter. Et ensuite, avec la même voix, ils chantent du rock'n'roll. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Regardez à quelle Église ils appartiennent. Elvis Presley est un membre des Assemblées de Dieu. Vous y êtes, chacun d'eux vous laisse là, et Satan le leur a donné. Ne voyez-vous pas, amis, combien ne vous détachez pas de cette parole. Voyez-vous, c'est un esprit qui vient sur vous. Et je dis à ces femmes, quand elles se donnent l'air sexy dans tes robes, que Dieu va leur faire répondre d'avoir commis adultère. Si vous croyez que je suis ce que vous dites, un serviteur de Dieu, un prophète, écoutez ce que je vous dis. Voyez-vous, il se peut que vous ne compreniez pas. Et si c'est le cas, alors faites simplement ce que je vous dis de faire. Dieu me tiendra pour responsable de ce que je dis. Voyez-vous, écoutez très attentivement et souvenez-vous que ces choses sont un esprit. Ordinairement, peut-être que la personne... Vous vous souvenez de Dieu couvert d'une peau sur lequel j'ai prêché il n'y a pas longtemps, voyez-vous? Dieu avec une peau sur lui. Maintenant, souvenez-vous simplement que certains de nous sont envoyés dans ce monde pour pénétrer dans ces domaines et nous dire ces choses. Voyez-vous, c'est la préscience, c'est Dieu qui parle, qui montre. Lorsque vous jugez quoi que ce soit par la chair, eh bien, ils sont innocents. Regardez ici, ce brave Jean, honnête, qui vous dirait par le moindre mensonge. Et tout cela, c'est le diable. Religieux, commençons même une campagne de guérison. Voyez-vous, c'est exactement Antichrist. Et il y a des presbytériens et tous les autres. Vous voyez ces dénominations, comment elles font exactement la même chose? Eh bien ici, à Londres, en Angleterre, ils ont eu récemment un groupe de rock'n'roll pour imiter Christ, Judas et tout cela. Ils ont appelé Christ Petit Père et ils ont utilisé tous ces mots que disent ces gamins stupides. Voyez-vous, les adolescents ont conquis le monde. Or vous savez que la Bible prédit cela. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, rebelles à leurs parents, voyez-vous? Les adolescents conquérant le monde, et l'ont fait. Je suis allé dans un endroit l'autre jour où il faisait marcher un de ces vieux et sales jukebox. Je n'ai même pas voulu y emmener ma famille. J'ai dit à cette dame, combien coûtent ces disques? 10 cents chacun. Combien ça peut-il en jouer en une heure? Elle me le dit. Je lui dis, voici l'argent, débranchez-le. Oh, dit-elle, je ne pourrais pas faire cela. Ces jeunes viennent ici pour faire marcher ça. Je n'avais alors pas d'argent à dépenser là. Je suis donc allé ailleurs. Voyez-vous, ces choses vous rendraient nerveux. Vous devriez aller chercher des tranquillisants après avoir entendu ces idioties. C'est simplement pénible pour un chrétien. Si vous aimez ce genre de choses, vous savez ce qui ne va pas avec vous. Vous avez besoin d'être sauvé. Parce que ce qui est en vous se nourrit de quelque chose en dehors de la parole. Il se nourrit de... Vous ne pourriez pas vous imaginer Jésus faisant une telle chose, n'est-ce pas? Pourriez-vous vous imaginer l'un des prophètes faisant telle chose? Ne voyez-vous pas, amis, que tout cela est partout le diable? La Bible dit de quelle manière il viendrait sous la forme de la religion et qu'il ferait exactement comme le Christ. Voyez-vous? Mais la seule façon qui vous permettra de le reconnaître, Ce n'est pas en vous joignant cette église ou en vous joignant celle-là, c'est en restant avec la parole. Il est la parole. Maintenant que le Seigneur vous bénisse chacun, nous allons tout de suite nous attaquer aux questions, et ceci pendant environ 1h15. Je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions. Il y en a des piles. Je pense que ce sont de bonnes questions. Elles sont très bonnes. J'en prendrai simplement une ici et là, et j'y répondrai au fur et à mesure. J'ai pensé ce soir que je viendrai simplement ici, et que je laisserai quelqu'un les lire, puis je dirai oui ou non, oui ou non. Mais ce n'est pas être juste envers les gens. Ils ont posé ces questions pour qu'on y réponde. Je ne ferai pas cela. Je prendrai ce que je peux, et le reste, je le prendrai lors de mon prochain passage. À propos de dimanche prochain, je ne sais pas ce que je ferai. Eh bien, si vous contactez Billy entre maintenant et mercredi, nous devrons peut-être partir. Maintenant, il y a une chose. Je suis très en arrière avec les entrevues. Billy m'a montré une pile d'entrevues comme ça haute. Certaines attendant depuis des mois. Eh bien, pendant que je suis ici, je dois en avoir quelques-unes, ainsi que quelques réunions, c'est-à-dire faire tout ce que je peux pour en quelque sorte trouver l'équilibre en cela. Je vais prier cette semaine pendant mon absence et demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse, finir ceci ou prendre des entrevues. Si je prends les entrevues, alors je reviendrai à la maison dimanche dans ce but-là. J'en aurai ainsi pendant la journée. Et si je ne le fais pas, eh bien je devrais mettre les entrevues de côté jusqu'à ce que je revienne. Si je ne les ai pas, alors je répondrai, Billy vous enverra une carte. Et je vais vous dire comme ils sont gentils, pour montrer comme ils s'aiment entre eux, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. L'un dira à l'autre, et l'autre dira, Billy en appelle juste un dans une région d'environ 250 kilomètres, et se communique la chose de l'un à l'autre. Ils s'aiment entre eux, ils ne veulent rien manquer. Ils veulent être ici à chaque minute, pour voir ce qui se passe. Car si le Seigneur allait donner quelque chose, ils veulent être ici pour le recevoir, et je les apprécie. Maintenant souvenez-vous, chers amis, ce matin, j'ai fait une déclaration à propos de certaines des questions. Et je vois que certaines de celles, oui, que j'ai reçues ce matin, traitent aussi des gens qui déménagent en Arizona. Voyez-vous, j'ai pensé que j'aurais avantage à rendre ceci clair, afin que vous compreniez. Maintenant, ne pensez pas que j'essaie de dire aux gens où ils peuvent habiter et ce qu'ils peuvent faire. Je ne dis pas cela, mon cher frère. Il y a d'honnêtes personnes qui veulent déménager en... Eh bien, tous ceux qui veulent déménager, je serai certainement heureux. Aussi longtemps que je suis là-bas, pour autant que je sois là-bas. Je suis ici environ 10 fois plus que je ne suis là-bas. J'ai, entre maintenant et Noël, je pourrais être environ 4 jours là-bas, puis tout de suite après, je pars outre-mer. Je serai ici au tabernacle peut-être 2 ou 3 semaines avant de partir outre-mer, pour un réveil, comme je le fais généralement au printemps. Puis après cela, je n'aurai qu'une réunion dans tout l'Arizona, et ce sera en janvier à Phoenix, 2 soirs avec les hommes d'affaires chrétiens. Voyez-vous, si les gens là-bas... pourriez-vous arrêter cette bande? Maintenant, alors que nous commençons avec ces questions ce soir, j'en prendrai une ici et les appréciez-vous, dites Amen. Amen. Je pense que cela nous est profitable en ce moment. Et oh, je crois que bientôt, ce matin, avant de venir ici, alors que je regardais certains textes et passages dans la Bible, je pensais... Oh, comme ce serait merveilleux si, alors que nous attendons la venue du Seigneur, nous reprenions tous ces personnages de l'Ancien Testament, en passant par Job, etc., et que nous ayons une série de réunions là-dessus. Ne serait-ce pas merveilleux? Simplement pour vous montrer de quelle manière le type qu'il représente se retrouve aujourd'hui. Toute la parole est liée entre elles, et tout ce qui se rapporte aux destructions qu'il y a eu dans le passé, et comment elle se retrouve sous forme de type aujourd'hui. Et comment tout dans l'Ancien Testament parle de la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, voici la première question que j'ai retirée. Frère Branham, est-ce faux pour une chrétienne de se mettre des bigoudis? Aussi, quelle longueur devrait avoir ses manches? Merci, une sœur. Cela a une grande importance pour cette femme. Oh, il se peut que certains de nous, les frères, nous pensions, oh, qu'elle saute. Mais pour elle, ce n'est pas stupide, elle veut savoir. Amen. Maintenant, pour ce qui est de faire des... Qu'était-ce? Des nattes avec ses cheveux ou quelque chose comme cela? Pardonnez-moi. Des bigoudis. Excusez-moi, j'ai dit des nattes. C'est ce que les filles avaient l'habitude de porter il y a des années. Vous vous souvenez des sortes de... N'est-ce pas juste, on les appelait des nattes? Ces sortes de boucles qui pendaient. Non, là il s'agit de bigoudis. Excusez-moi, mes amis. Quelle longueur ces manches devraient-elles avoir? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à ce sujet. Je ne sais pas. Voyez-vous, si je ne peux pas le soutenir par la Bible, je ne veux pas en dire beaucoup. Maintenant, je vous dis simplement ce que je pense parce que je n'ai pas de passage de l'Écriture pour le soutenir. La seule chose que j'ai pour les dames à propos de leurs cheveux, c'est de ne pas les couper. Comment elles veulent les porter, c'est leur affaire. Et à propos des bigoudis, en fait, je ne sais pas ce que c'est. À moins que ce soit ces choses qui ressemblent à des pinces à linge qu'elles se mettent dans les cheveux. Comme je, c'est la seule chose que je connais. À propos de la longueur des manches, je pense qu'étant chrétienne, Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Vous voyez, je crois qu'en tant que chrétienne, vous devriez savoir comment il faut faire. Je ne pense pas que Dieu réclame une certaine longueur ou quoi que ce soit. Aussi longtemps que vous êtes décente, que vous paraissez honorable et propre, je pense que c'est en ordre. Pas vous? Voyez-vous, maintenant c'est simplement mon opinion. C'est moi, voyez-vous, parce que je ne peux rien soutenir d'autre par l'Écriture. Je crois que ce matin, la question était soulevée à propos de la coloration des cheveux, vous savez. Or, je ne peux rien dire à ce sujet. Je ne sais pas, je n'ai aucun passage de l'Écriture à vous dire s'opposant à ce que vous saignez vos cheveux. C'est, vous femmes, vous aimez avoir bonne façon et vous devriez avoir bonne façon. Et frère Branham n'est pas contre vous, mes enfants. Vous êtes mes enfants, je vous aime. Et je ne veux pas avoir à vous reprendre. Je ne le ferai pour rien au monde. J'essaie seulement de vous aider. Mais maintenant, regardez. Laissez-moi simplement vous demander. Laissez-moi dire ceci pour répondre à cette question. Êtes-vous prêt? Et pour vous qui écoutez la bande, le voici, sœur. S'il y a un doute à ce sujet, ne le faites pas. Mais si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et conduit à le faire, aussi longtemps que cela ne vient pas à l'encontre de l'Écriture et que cela ne soulève pas de questions, vous êtes parfaitement satisfaite de ce que c'est la volonté du Seigneur, alors allez-y et faites-le, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de passage de l'Écriture qui s'oppose à cela. Je n'ai rien dit de semblable dans la Bible. Je sais qu'Ésaïe 5, je crois que c'est juste, parle des femmes, comment elles changeront de vêtements, etc. Mais c'était par orgueil, pour la façade. Et si vous faites cela par orgueil, alors c'est faux, voyez-vous. Examinez votre cœur devant Dieu. Il n'y a pas de passage, s'il n'y a pas de passage de l'Écriture à ce sujet-là, voyez comment l'Esprit vous conduit, et alors allez-y, faites-le. Mais lorsqu'il s'agit de savoir si vous devriez avoir les cheveux longs ou les cheveux courts, vous devez avoir les cheveux longs. C'est ce que la Bible dit. Il y a une question ici à laquelle je pourrais répondre tout de suite. C'est là-dedans. Je l'ai vue ce matin, ou il n'y a pas longtemps. Elle dit ceci, vous répétez sans cesse aux femmes ce qu'elles ne doivent pas faire avec leurs cheveux, mais vous ne dites jamais rien au sujet des hommes. Si je voyais un homme entrer ici avec une longue chevelure lui pendant dans le dos comme une femme, je lui dirais, monsieur, pourquoi n'allez-vous pas chez le coiffeur? Vous avez l'air d'une femme. Voyez-vous? Mais généralement, les hommes n'agissent pas ainsi. Voyez-vous? Ce n'est pas que l'homme soit infaillible. Il est aussi coupable que la femme. Et à ce propos, un homme qui laisse sa femme agir ainsi est doublement coupable de cette chose. Parce qu'il est supposé être celui qui a autorité dans sa maison. Et cet homme ne sait même pas diriger sa propre maison. Comment pourrait-il le faire dans la maison de Dieu? Voyez-vous? Je suis si reconnaissant pour les femmes qui viennent ici. Je dis ceci avec respect et amour, et Dieu sait que c'est la vérité. J'avais un ami prédicateur dans le sud qui avait l'une des églises les plus propres que j'avais jamais vues. Quant aux femmes, celles qui se trouvaient là étaient les plus admirables que j'ai jamais vues. Pour leur sainteté, leur piété, elles avaient une longue chevelure. J'ai toujours aimé aller à cette église-là. Et le Seigneur Jésus m'a donné une église aujourd'hui ici qui dépasse là de plus de 100 kilomètres. Mes sœurs, je ne vous gronde pas pour être désagréable. Je suis seulement si fier de vous. Je ne veux tout simplement pas que Satan mette son pied quelque part. Amen. Voyez-vous, je désire que vous avanciez et non que vous reculiez. Amen. Ne laissez jamais un homme vous séduire par quelque enchantement ou quelque chose de semblable en vous disant, « Eh bien, cela ne fait pas. » Voyez-vous, c'est de cette façon que Satan interprète la parole à Ève. Croyez simplement ce que dit la parole. Très bien. Très urgent. Frère Branham, sachant que le temps tire à sa fin, et que l'éternité prend place, que conseilleriez-vous à un couple qui projette le mariage? Allez de l'avant et mariez-vous. Voyez-vous, continuez simplement comme si vous alliez vivre encore une centaine d'années sur cette terre. Allez tout simplement de l'avant, gardez vos cœurs fixés sur Christ et non sur les choses du monde. Voyez-vous, allez-y, mariez-vous enfants, que Dieu bénisse votre mariage. Cher frère Branham, j'ai été baptisé au nom de Jésus. La parole dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que ceci signifie le baptême, le Saint-Esprit, ou est-ce que ceci signifie que je devrais recevoir le don, que je devrais recevoir une expérience bien définie avec le baptême? Je suis anxieux d'être rempli de l'Esprit. Veuillez excuser, s'il vous plaît, ma longue question, mais il y a longtemps que je désirais vous la poser. Merci. Et la personne a signé. Elle est de l'extérieur. Voilà une bonne question. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien définie qu'une personne doit recevoir. Laissez-moi pour une minute vous expliquer cela. Voyez-vous, bien des personnes s'imaginent, je crois que c'est tordu. Et peut-être que c'est une question que se pose l'Église ici et celle qui est à l'écoute. Or, lorsque je dis ne pas croire que le signe initial de l'évidence du Saint-Esprit est le parler en langue, je n'accepte pas cela. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, je puis prouver par la Bible que c'est faux, voyez-vous. Parce que le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Combien savent cela? La guérison divine est un don du Saint-Esprit. Et voici que les Beatles font cette chose-là, voyez-vous. Satan peut imiter n'importe lequel de ses dons. Les sorciers et les magiciens peuvent parler en langue et interpréter cela. Dans la jungle, très souvent, un sorcier parlera en langue, boira du sang dans un crâne humain et interprétera des langues inconnues. Là-bas, en Arizona, quand ils ont le vieux festival de la danse du maïs, les Indiens enroulent autour d'eux ces gros serpents, alors qu'ils essayent de prier Dieu de leur envoyer de la pluie sur leur maïs. Ils appellent cela la danse du maïs. Ils prennent l'aigrette du maïs, la placent autour d'eux, puis ils dansent. C'est alors que leur sorcier guérisseur sort avec des cornes sur la tête, des cornes de bison. Puis ils dansent avec ces gros serpents roulés autour d'eux. Il y a là les sorciers et beaucoup de fumeurs de pipe. Ils ne permettront pas à un homme blanc de se trouver là à ce moment. Mais je les ai observés au travers de mes jumelles. Et j'ai des amis indiens qui sont allés à leur danse. Ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens qui font cela, bien entendu. Elles dansent cette danse du maïs en tenant ses serpents. C'est alors que le sorcier sort et qu'il se fait des incisions avec des couteaux, etc. Et finalement, ils entrent dans l'esprit. Puis ils parlent en langue et les interprètent. Je pourrais vous amener dans l'espace de 3 ou 4 heures chez un médium qui posera un crayon sur une table, puis entrera dans une transe, fera toutes sortes de choses et agitera les mains. Et ce crayon se redressera, écrira en langue inconnue et le sorcier se lèvera et vous dira ce qu'il dit. Maintenant, tout ceci n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, voyez-vous. Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l'Esprit. Parce que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et la science chrétienne exerce beaucoup plus d'amour que n'importe qui. Elle renie même la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule évidence du Saint-Esprit que je connaisse. Et c'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Lorsque ces Juifs sont venus, ils étaient plus religieux que les disciples. C'étaient des hommes mieux instruits dans les Écritures que les disciples, parce que ceux-ci étaient des pêcheurs, des péagers, etc. Elles avaient une foi réelle et véritable dans ce qu'ils faisaient. Maintenant, écoutez très attentivement, ne manquez pas ceci. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de considérer les fruits d'esprit, l'amabilité et la gentillesse, je pense qu'il n'y avait pas un de ces sacrificateurs qui ne surpassait Jésus-Christ à ce sujet-là. Car il est allé au temple, il pressa des cordes, puis les regarda avec colère. Il renversa leur table et les chassa dehors. Est-ce vrai? La Bible dit qu'il les regarda avec colère. La Bible dit cela. C'est exact. Ainsi, voyez-vous, ces sacrificateurs étaient gentils, doux, compréhensifs. Pour ce qui est des fruits d'esprit, ils pouvaient montrer plus de fruits d'esprit que n'aurait jamais pu le faire Jésus. Pour ce qui est de la théologie, ils ne savaient pas de quelle école Jésus sortait. Mais d'où vient cet homme? D'où vient-il? Quelle carte de membre possède-t-il? À quelle organisation appartient-il? Nous ne savons pas d'où il vient. Il était tout simplement quelqu'un de rejeté qui avait eu une naissance illégitime. Oh, nous pourrions l'abaisser ici en quelques minutes et vous montrer par les lois. En cela, ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli de voir qu'il était cette parole promise de l'heure. Le seul moyen par lequel ils pouvaient le reconnaître, c'était lorsque Jésus manifestait la parole en étant capable de leur dire ce qu'ils avaient dans leur cœur et ce qu'ils avaient fait. Il était un prophète selon la parole de Dieu. Ce qu'il disait s'accomplissait intégralement, mot pour mot. Il était le prophète de Dieu, son serviteur, Dieu le prophète. Non pas Auparavant, ils avaient le prophète de Dieu. Mais ceci était Dieu le prophète.
Amen.
Non pas le prophète de Dieu. Il y eut Malachie, Jérémie, Ésaïe, Élie, etc. Mais ceci était Dieu le prophète.
Amen.
Non pas le prophète de Dieu. Le saisissez-vous maintenant? Tous les prophètes qui ont typifié sa vie, en partie, ont rempli leur rôle. Mais en lui se trouvait la plénitude de tous les prophètes. Les prophètes, la parole du Seigneur est venue à eux, mais ceci était, et la parole, et le prophète, en la même personne. Voyez-vous? Maintenant, quand un homme reçoit Christ tel qu'il est, vous ne pouvez pas accepter cela comme étant... Voyez-vous? Certains d'entre eux disent, « Eh bien, je suis un luthérien. » Or, il n'y a rien à contre. Mais les aigles ne se nourrissent pas de cela. Voyez-vous? Cela n'allait pas plus loin. C'était la nourriture fraîche de ce jour-là. Je suis un Wesleyen, c'est très bien, mais vous vivez dans le passé. Voyez-vous? Ces gens dirent, « Oh, nous avons Abraham pour père !» Mais le prophète déclara, « Dieu peut de ses pierres-filles susciter des enfants Abraham. » Voyez-vous? Nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela. Cela n'avait rien à voir. Il a dit, « Vous, race de serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ne commencez pas à dire, nous avons Abraham pour père, parce que Dieu peut de ses pierres-ci susciter des enfants Abraham. Voyez-vous, ainsi le fait d'être un théologien bien instruit n'a rien à voir avec cela. Être doué gentil n'a rien à voir avec cela. Qu'est-ce qui le rendait différent? Il était la parole faite chair. Non pas la parole pour le temps de Moïse, Moïse était la parole pour ce temps-là. Non pas la parole pour le temps de Noé, Noé était la parole pour ce temps-là. Non pas la parole pour le temps d'Élie, Élie était la parole pour ce temps-là. Mais il était la parole au présent. Et ceux-ci vivaient dans le passé. La même chose se répète. Voilà l'évidence du Saint-Esprit. Lorsque Dieu vous révèle et que vous voyez le « ainsi dit le Seigneur » et que vous l'acceptez, non pas ce que vous êtes ou ce que vous étiez, ni rien de cela, mais c'est ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Voilà l'évidence. Jésus a dit, il nous donne l'évidence du Saint-Esprit. Jean 14. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous dira. Il vous remettra en mémoire toutes les choses que je vous ai dites. Et aussi, il vous montrera les choses à venir. Ne le voyez-vous pas? Voilà l'évidence. C'est prédire et avoir l'interprétation divine de la parole écrite. Maintenant, n'est-ce pas l'évidence d'un prophète? Un voyant dans la Bible était un homme qui pouvait prédire et cela s'avérait parfait, exact. Et personne ne lui avait imposé les mains. C'est un don. Un prophète est prédestiné, est né pour être un prophète. Voyez-vous, toute sa vie entière, il était un prophète. C'est une fonction. C'est là où les gens, il y a eu plusieurs questions telles que, eh bien, est-ce que l'épouse, arrivera-t-il ceci, l'église est... Voyez-vous, vous ne pouvez pas séparer ce qu'ils sont. L'épouse est l'élu de Dieu. L'église passe au travers. Ce sont ceux à qui il est dit que celui qui veut venir vienne. Mais l'épouse, c'est l'élu de Dieu. Il y a cinq offices élus de Dieu, car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Dieu a fait cela. L'homme a des diacres, etc., et tout le reste. Mais vous voyez, Dieu a placé dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Vous ne pouvez pas le séparer. Maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vous rend témoignage, voyez-vous, que cette parole est juste, la parole pour aujourd'hui, non pas la parole pour Luther, non pas la parole pour Moïse. Nous témoignons qu'elle est la vérité, mais c'est un autre jour. Et si Jésus était venu et avait dit, eh bien, comme Moïse est venu pour vous faire tout sortir d'Égypte, je suis venu pour vous amener quelque part d'autre. Et s'il avait dit, mettons-nous au travail et construisons une arche, je suis le Seigneur Dieu et je m'en vais submerger ce monde et les noyer tous maintenant. Eh bien, leur étant d'ordre, voyez-vous, les Écritures n'ont jamais dit qu'ils viendraient ainsi. Voyez-vous, n'auraient pas été le Messie. Peu importe combien ils auraient construit d'arches, ou ce qu'ils auraient fait, ils n'est toujours pas, ils n'auraient pas caractérisé le Messie. Alléluia! Vous y voilà! Ce sont les qualités requises. Oui, monsieur. En Corinthiens 13, dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ainsi, toutes ces petites choses, comme sauter de haut en bas comme un enfant, essayer de parler en langue, et toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait, et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole, avec une confirmation divine, alors ce qui est partiel disparaît. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ces choses enfantines. Amen. Je me mets à prêcher, et je ne réponds pas aux questions. Frère Branham, ai-je fini avec cela? Ai-je parlé au sujet du baptême du Saint? Oui, cela traitait de ça, n'est-ce pas? Très bien, veuillez m'excuser si je ne comprends pas, pardonnez-moi simplement. Ces questions sont si merveilleuses. Vous pourriez rester une nuit entière seulement sur une question, frère, et ne même pas l'effleurer. Je vous apprécie en tant que serviteur de Dieu. Et je crois le message de vérité. Ma femme ne peut pas m'entendre dire quoi que ce soit à propos de ce message. Et elle ne veut écouter aucune bande. Je suis aussi dans un état de nervosité à mon travail. Je veux que ma femme croie aussi et je prie pour mes enfants. Frère Branham, je veux la volonté de Dieu dans ma vie. Je veux être son serviteur. Et cette personne marque, tournez s'il vous plaît. Attendez une minute. Lorsque j'étais jeune, je disais à chacun que je voulais devenir prédicateur. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Bien à vous dans le Seigneur. Maintenant, c'est une bonne question. Et cet homme est sincère. Sa femme, sa compagne qui est une partie de lui. Puis-je ajouter quelque chose à ceci? Mes frères, je dis ceci dans le nom du Seigneur. Un de ces jours, Dieu voulant, je pense que j'irai de l'avant et que j'enregistrerai cette bande sur mariage et divorce. Voyez-vous, j'apporterai ceci au tabernacle. Si cela divise, qu'il en soit ainsi. Mais nous allons prouver que c'est la parole du Seigneur. Regardez, mes frères, écoutez ceci. Savez-vous que souvent vous choisissez la mauvaise compagne ici sur cette terre? Une jolie paire d'yeux bruns ou bleus ou gris vous ont envoûté alors que vous n'auriez pas dû vous y laisser prendre? Beaucoup d'hommes réalisent cela. Un homme qui se marie devrait d'abord aborder ce sujet-là dans la prière. Vous ne devriez pas choisir une femme à cause de sa beauté extérieure, mais bien à cause de sa beauté intérieure, une femme qui sera une bonne mère pour vos enfants. Je sais que cela va paraître terrible qu'un ministre dise cette chose à la chair, mais j'avais coutume d'aller avec des acheteurs de bétail que j'étais dans l'Ouest. Nous achetions des vaches qui étaient bonnes pour la reproduction, car il voulait commencer à faire l'élevage. Et j'ai beaucoup appris pendant que j'étais là-bas, en observant ce que faisaient les commissaires priseurs et les acheteurs. J'avais l'habitude d'aller avec un vieil ami qui venait à l'église avec moi, et que j'ai conduit à Christ. Un parfait incroyant pour commencer, M. Jeffries. Beaucoup d'entre vous se souviennent de lui, un propriétaire de ranch du Colorado. Nous allions, et voici qu'ils amenaient une vache. J'ai vu un jour une petite génisse pour l'élevage être vendue pour 11 000 $. Juste une petite génisse qu'il n'avait encore jamais vêlée. Et Jeff dit, si j'avais l'argent, je le placerais sur cette génisse. Et je pensais, c'est un propriétaire de ranch, il connaît son affaire. Je dis, Jeff, pourquoi achèterais-tu? Quelles sont les qualités requises? Elle est de la race Hereford, celle que l'on a vendue il y a quelques instants pour 300 $, me semble être une génisse plus grosse. Il me dit, regarde Billy, il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'achat du bétail. Il me dit, je pense que tu devrais rester dans le domaine de la prédication. Tu ne connais pas le bétail. Il ajouta, maintenant regarde cette génisse là-bas. Nous marchâmes jusque-là, puis il dit, « Vois-tu ce regard sauvage dans tes yeux ?» Je dis, « Oui. » Il ajouta, « Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants auront toujours ce regard sauvage. Ils deviendront maigres. Elles ne seront jamais une mère pour leurs petits. » Puis il dit, « Tu ne pourras jamais les engraisser, elles ne donneront jamais de viande. Regarde cette petite génisse ici qui était vendue. Regarde comme elle a l'air gentille. Vois sur elle cette expression paisible et douce. » Il n'y a rien d'agarre dans tes yeux. Il dit, elle sera une réelle maman pour son petit, et le petit de son petit continuera de même que les suivants être ainsi. Elles seront toutes des mamans, s'ils peuvent accoupler cette génisse au taureau qui conviendra. Mais si un homme essaie d'acheter du bétail, ce regard fixe produira toujours un médiocre troupeau de bétail. Je dis, très bien, je te remercie. Et la même chose s'applique aux femmes. Vous prenez une de ces femmes au visage fardé, avec ses yeux hagards, ressemblant à une sorte d'animal, et qui, à force de se défigurer, n'a plus l'apparence d'un être humain, elle ne fera jamais rien de bon. Elle va courir tout le temps. Et le christianisme n'est pas la beauté de l'extérieur, mais c'est celle de l'intérieur. Une parure de paix, de quiétude, un esprit paisible et doux, ce qui est un grand prix devant le Seigneur. C'est ce que nous désirons trouver dans la femme, et dans l'homme, et en qui que ce soit. Frère Branham, question. Une femme chrétienne peut-elle porter des bijoux simples, tels que des colliers ou des perles? Eh bien, sœur, je sais que cela a de l'importance pour vous, et je suis très touché par la confiance que vous me témoignez. Or, souvenez-vous, la Bible dit, « Lorsque vous vous parez, ne vous parez pas de bijoux précieux, de perles, etc., mais parez-vous plutôt d'un esprit paisible, tranquille et doux, comme je viens de le citer, ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. » Maintenant, je ne veux pas dire par là, sœur, que si vous avez une broche, maintenant c'est moi qui dis ceci, non pas le Seigneur. Si vous avez une broche que vous désirez porter, ou un petit collier que votre mari vous a donné, ou quelque chose comme cela, eh bien, d'après moi, je ne pense pas que cela soit mal. Maintenant, ce n'est que mon avis. Souvenez-vous, je vous fais remarquer que c'est mon opinion. Mais je pense que cela dépend de votre attitude vis-à-vis de cela. C'est la façon dont vous le faites, voyez-vous. C'est le motif qui est derrière cela. Et lorsque vous voyez que cette chose commence à avoir de l'emprise sur vous, alors laissez-la de côté. Mais je pense que si vous portez votre alliance, maintenant, je sais que vous, les Nazaréens, aviez coutume de ne pas même baptiser une femme qui portait une alliance. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'agir ainsi. De la Bible, elle portait des alliances. Seulement, c'était ce qu'ils appelaient un diadème, qu'elle se mettait sur la tête. Celui-ci se composait de 9 pièces de monnaie pour montrer qu'elles étaient mariées. Or, je pense que c'est en ordre. Je pense que si les femmes veulent s'habiller décemment et avoir l'air propre, distingué, eh bien, je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais lorsque vous portez cette petite chose avec un petit sentiment de fierté, alors vous avez tort. Cela dépend de votre attitude. Vous souvenez-vous, vous les dames, il n'y a pas longtemps, ils avaient ici ce qu'ils appelaient les jupes scandales. Je pense qu'elles reviennent à la mode. Maintenant, elles sont encore pires que ça. Mais ils avaient un spectacle, il n'y a pas longtemps. Et les filles, les jeunes femmes, et bien entendu, celles qui étaient plus âgées le faisaient aussi, parce qu'elles veulent toutes paraître jeunes. Je ne parle pas de vous, mes sœurs, je parle des femmes du monde. Puis elles écourtaient leurs jupes chaque fois d'environ 30 cm, puis elles portaient un genre de sous-vêtement pour avoir l'air joli. Et lorsqu'elles faisaient un pas, cela montrait ce sous-vêtement avec ses dentelles et volants. Ce qui est, vous savez, un jour, une jeune fille est venue vers moi. C'était une jeune fille d'Ankeld, qui venait juste de recevoir le Saint-Esprit. Elle appartenait aux Assemblées de Dieu, et c'était à Fort Wayne, en Indiana, où je me suis marié. Et cette aimable jeune fille est venue vers moi. Elle me dit, « Frère Branham, je veux vous poser une question. » Je dis, « Très bien, sœur, de quoi s'agit-il ? » Elle dit, « Pensez-vous que c'est mal pour une jeune fille chrétienne de porter une jupe scandale ?» Je répondis, « Sœur, je ne comprends pas très bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'une jupe scandale ?» Et elle m'expliqua ce que c'était. Elle dit, « Cela fait voir le jupon. » Je dis, « Mais qu'est-ce qui inciterait une femme à vouloir montrer ses sous-vêtements à un homme ?» Qu'est-ce qui ferait, de quel droit une jeune fille chrétienne ferait-elle une telle chose? Pourriez-vous imaginer cela d'une chrétienne? Maintenant, regardez l'homme, pour ce qui est de son corps, celui-ci n'a pas tellement d'attrait. Et s'il se déshabille à moitié, cela ne ferait pas scandale. Ce n'est pas que je défende les hommes, mais vous savez que, quel genre de femme serait tentée par un homme qui aurait enlevé sa chemise et qui porterait des shorts, par exemple? Ce gros gaillard qui a l'air dégoûtant et à moitié avachi, oh, quelle horreur! Eh bien, je pense que le fait de voir ces hommes se montrer ainsi ferait vomir une femme. Si elle avait, mais maintenant, prenez une femme et mettez-la ainsi. Son corps est un temple différent. Comprenez-vous? Très bien. Mais je pense que s'il s'agit d'un collier ou... Maintenant, si vous vous mettez à vous couvrir de bijoux, comme si vous étiez allé faire le tour du magasin Bon Marché, qui est près d'ici, avec un aimant sur vous, je crois que... Excusez-moi, je ne voulais pas dire cela ainsi, mais je crois que ce serait faux. S'il y a une chose qui, pour la première fois, m'a fait tourner contre moi, qui m'a fait avoir honte de l'Amérique, c'est... J'étais un jour en Suisse, et frère Arkenbright et moi, nous avons trouvé un bon endroit près de Lausanne, où nous pouvions manger un bon bistec, à peu près gros comme ça, et qui pesait dans les 300 grammes. Et cela, je pense, pour environ 30 cents en argent américain. Oh, nous vivions comme des rois. Tous les jours, nous allions manger là-bas. Et vous savez, là-bas, ils boivent tous du vin. L'euro n'est pas bonne. Et comme je ne voulais pas boire ce vin, je suis allé me procurer une petite bouteille d'eau distillée dans une pharmacie. Et j'apportais cette petite bouteille partout où j'allais. Je suppose que tout le monde a pensé, eh bien, ce gars-là transporte sa propre marque avec lui. Ainsi, je tenais ça à la main. Nous sommes donc allés à cet endroit où ils vendaient ses bistecs. Et un jour, Miss America arriva en voiture. Cela ressemblait à une cheville modèle 28. Elle avait un petit canif sur les genoux. Elle le fit entrer là-dedans. Elle était couverte de... Ces deux femmes avaient sur elles une quantité de bijoux bon marché, de grands et longs machins qui pendaient très bas, ainsi que des boucles d'oreilles. Elles avaient le visage fardé. Et les deux avaient à peu près 50 ans. Elles étaient aussi âgées que moi. Vous auriez pensé qu'elles voulaient se donner l'air d'avoir 15 ans. Mais qu'est-ce qu'elles essaient de faire? Elles essaient de conduire sur le chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur, regardant ce qu'elles ont été dans le passé. Or, un chrétien ne fait pas cela. Un chrétien n'essaie pas d'être ce qu'il a été, il ne regarde pas où il a été, il regarde là où il va. Voyez-vous, ne prêtez pas attention à ce que vous étiez alors. Tout cela est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. Cela est du passé. Et n'importe quel homme qui marche au chemin de la vie en regardant dans un rétroviseur court à sa ruine. Il en est de même pour vous qui êtes sur ce chemin de chrétien. Ne regardez pas ce que vous étiez, regardez à ce que vous allez être. Paul a dit, oublions les choses qui sont du passé, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Or cela vous faisait honte, elles amenèrent là-dedans cet infect petit chien, elles le firent rasseoir sur la table. Maintenant, cela ferait vomir n'importe qui. Elles caressaient ce petit chien qu'elles avaient mis là-dessus et jouaient avec lui, pour ensuite aller manger avec les mêmes mains. Puis le serveur s'est approché et leur a dit quelque chose. Le docteur Guggenbuch était avec moi. Il commença à rire, puis détourna le visage. Je dis, qu'a-t-il dit? Il répondit, le serveur a dit, ôtez ça de là. Il dit, non, c'est une Américaine, laissez-la tranquille. En d'autres termes, elle ne connaît pas mieux. Voyez-vous, lorsque je suis allé à Saint-Ange, à Rome, pensez ainsi, au Vatican, à Rome, en Italie. Ils avaient là, à Saint-Ange, un écriteau disant, aux femmes américaines, avant d'entrer dans cette catacombe, veuillez vous habiller pour honorer les morts. L'Église catholique. Voyez-vous? Question. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Sera-t-elle dans un endroit semblable à Goshen où étaient les enfants d'Israël lorsque les plaies tombèrent? Est-ce que l'épouse sera sur la terre quand cela se produira? Si oui, où sera-t-elle? Est-ce que l'épouse sera rassemblée en un seul endroit au moment de l'enlèvement? L'épouse, quand la terre explosera, au moment de l'enlèvement, il y aura le réveil des morts et leur réunion avec les vivants. Ceci pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. Mais l'épouse, maintenant voyez-vous, une de ces choses est l'enlèvement de ce côté-ci, avant le millénium. Et quand la terre brûle, c'est de l'autre côté, après le millénium et après le jugement du trône blanc. Voyez-vous, les saints seront campés sur la surface de la terre. Quand Satan viendra contre la cité bien-aimée, et Dieu enverra du ciel une pluie de feu et de soufre et les détruira. Très bien, maintenant c'est ce que dit l'Écriture. Aussi, frère Branham, je crois qu'une femme devrait être soumise à son mari. Mais si une femme chrétienne a un mari pécheur, qui ne vient même pas à l'une de vos réunions et qui désire que sa femme fasse certaines choses comme se couper les cheveux, porter des shorts et aller dans des endroits malsains, est-ce que cette femme est censée être soumise à cet homme dans ce cas-là? Veuillez s'il vous plaît expliquer ceci plus clairement comme c'est une question que l'on pose souvent. Non, sœur, vous n'êtes pas soumise à une telle personne. Bien sûr que non. Et à cause de ceci, vous abandonnerez tout et vous attacherez à Dieu. Maintenant la chose, si vous voulez, si cet homme veut vivre avec vous et que vous restez une chrétienne, mais s'il veut vous faire porter des pantalons, couper vos cheveux, etc., et vous emmener dans ces endroits malsains, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous n'êtes pas lié à une telle personne. Mais aussi longtemps dit la Bible, qu'elle consent et que lui consent à ce qu'ils habitent ensemble. Vous souvenez-vous de cela? Alors qu'il, maintenant, pour ces questions, je n'ai pas inscrit les références bibliques. Parce que je viens d'y prendre il y a quelques minutes. Voyez-vous, je tombe sur une de temps en temps que je n'ai pas eu le temps de... Mais Paul dit qu'aussi longtemps qu'il, qu'un mari incroyant, une femme croyante, ou vice versa, que la femme croyante demeure avec le mari incroyant, aussi longtemps que cela n'est pas contraire à Dieu. S'il veut demeurer avec elle, d'accord, vas-y chérie, si tu vas aller à l'église, c'est ton ordre, mais moi je n'y vais pas, je ne crois pas là-dedans, je n'ai rien à voir à cela. Mais toi vas-y, c'est ton ordre. Mais lorsqu'il dit, tu n'iras pas, alors c'est une autre chose. Vous n'êtes dans ce cas pas lié à cela. Vous laissez tout de côté pour Dieu. Frère Branham, est-ce, voyons, pour quelqu'un d'être ministre qui a un conjoint vivant dont il est divorcé et qui s'est remarié avant d'entrer dans le message? Eh bien, dans 1 Timothée 3, 2, si vous voulez l'inscrire, et dans Tite 1, 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme désire la charge d'évêque ou de prédicateur d'une chose ou l'autre dans l'église, il doit avoir une seule femme. C'est juste un ministre. Maintenant, c'est 1 Timothée 3, 2 et Tite 1, 6. Maintenant, Tite 1, 6. Oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une seule femme. Bon. Cher frère Branham, il y a approximativement 10 ans, Dieu m'a rencontré et m'a révélé ce qu'était le don de l'amour. Et alors, ma prière est que je revienne à cela. Est-ce que je le recevrai avant que je meure? Est-ce que mon mari entendra la parole et que dois-je faire? Ceci est davantage une question. Maintenant, elle dit ce dont il s'agit. Elle dit mon mari, ainsi je suppose que c'est la femme qui parle. Or, elle a perdu son premier amour. Voyez-vous, elle s'est refroidie dans l'esprit. Maintenant, sœur, peut-être parce que vous venez toujours à l'église et que vous faites ce qui est juste, vous n'avez pas perdu votre salut, mais vous avez perdu la joie de votre salut. Amen. David cria au Seigneur une fois, « Seigneur, rends-moi la joie Amen. De mon salut. » Amen. Vous êtes toujours une chrétienne, mais ce que vous devez faire, sœur, c'est vous détacher de tout votre savoir et chercher Dieu et prier. Amen. Est-ce que mon mari entendra la parole et que dois-je faire? Comme j'ai dit ce matin, soyez simplement salé. Vous êtes le sel de la terre. Votre mari verra votre manière de vivre chaste, et le mari, qui est un incrédule, sera sanctifié au Seigneur par la femme croyante. Cherchez simplement le Seigneur, restez humble et priez tout le temps en louant Dieu et soyez gentil envers votre mari aussi longtemps qu'il désire vivre avec vous de cette façon-là. Pour les services de dimanche, si une femme commet le mal avec un... Attendez une minute, je ferai mieux de lire d'abord ceci pour moi-même, vous voyez. Très bien, c'est en ordre. Si une femme commet le mal avec un homme marié, se repent et qu'elle aille arranger cette chose avec son mari, selon les Écritures, doit-elle aller vers la femme du mari impliqué, même si celle-ci ne sait rien à ce sujet-là? Ou est-ce le devoir de cet homme de le lui dire d'abord? Ou est-il même nécessaire qu'elle soit blessée? Jusqu'où pouvons-nous aller avec cette restitution quand ceci est terminé et accompli et qu'une amitié entre en jeu? Eh bien, ma chère sœur, il y a seulement une chose que vous avez faite et qui est juste. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans une mauvaise action, où vous avez pris le compagnon d'une autre femme et avez eu une relation intime. Et quand vous l'avez fait, vous avez déçu de la grâce. Alors, vous vous êtes repenti et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné vers cet homme et avoir mis cette chose en ordre. Vous allez prendre votre mari, aller vers cet homme, ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture que vous auriez dû faire. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, est venue vers moi. Quand elle était jeune, elle est allée avec un homme. Et ensuite, elle savait qu'elle faisait mal. Puis elle quittait la ville et s'en alla dans une autre ville très éloignée. Changea de nom et vécut avec des gens. Et cet homme l'a poursuivie et lui dit, lorsqu'il arriva là-bas, qu'il tenait le couteau par le manche et qu'elle devrait rester légalement son épouse. Sinon qu'il dévoilerait cela. Et alors qu'elle était là-bas, elle était mariée à un brave chrétien. Il lui dit donc que si elle ne le faisait pas, il la menaçait d'exposer la chose publiquement. C'est pourquoi elle dut vivre avec les deux hommes ce qui était mal. Au lieu de montrer ses couleurs au commencement, elle eut un enfant et maintenant cette fille a environ 18 ans et ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. Maintenant elle entre dans la ménopause et cela est devenu une obsession pour elle. Maintenant que peut-elle faire? Je dis, il n'y a qu'une seule chose. Elle dit, si je dis à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille le sait, elle va se suicider. Et je dis, si vous gardez cette chose dans votre cœur, vous irez en enfer.
Amen.
Maintenant, faites votre choix. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire table rase. C'est exact, soyez honnête. Vous savez, souvent dans les visions, lorsque les gens viennent, hommes et femmes, le Saint-Esprit dévoile les choses qu'ils ont faites dans leur vie. Et vous avez entendu parler de cela, et vous l'avez vu, et vous le savez, voyez-vous. Et il leur dit les choses qu'ils doivent faire. Ils disent, eh bien, j'ai déjà mis cette chose en oracle, Seigneur. Mais c'est vers votre mari ou votre femme que vous avez le devoir d'aller pour le lui dire. C'est juste, vous êtes censé confesser cela. Or, cette personne-ci, si c'est elle qui est coupable, elle a fait cela. Elle est allée vers son mari. Maintenant, vous êtes mise en ordre, sœur, parce que vous avez commis adultère contre votre mari. Vous êtes allée vers votre mari et vous avez mis cette chose au clair avec lui. Puis vous êtes allée vers cet homme avec votre mari et vous avez mis cette chose en ordre là-bas. Vous êtes en règle. Si votre mari continue à vouloir vivre avec vous, cela le regarde. Il n'a cependant pas à le faire. Mais s'il veut vivre avec vous et vous pardonner, alors soyez assez distingués pour ne plus jamais être coupable d'une telle chose. Mais s'il ne veut pas vous pardonner, alors c'est son affaire. Il peut vous répudier. Exactement. Mais maintenant, l'homme avec lequel vous avez commis cet acte, c'est lui qui doit aller vers sa femme, la prendre et revenir vers vous. Vous avez fait votre part. Maintenant, c'est à son tour de faire la sienne. Voyez-vous, autour de la deuxième partie impliquée. Cette femme commit cet acte avec cet homme, elle prit son mari, le lui confessa, et elle alla vers cet homme. Le lui confessa et mit cette chose en ordre. Maintenant, cet autre homme était aussi marié. Maintenant, c'est à lui d'aller vers son épouse et de revenir avec elle vers cette femme. Alors, c'est en ordre. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est alors réglé. Mais en dehors de cela, vous serez toujours coupable, et là, dans votre cœur, vous aurez cette condamnation. J'ai eu affaire à une dame il n'y a pas longtemps qui était dans ce cas-là depuis le temps de la Première Guerre mondiale. Elle me dit, « Oh, frère Branham, elle avait dépensé des centaines de dollars chez les psychiatres et tout le reste. J'étais assis là, la regardant de cette pièce, mais elle l'avait amenée là. Elle était assise là, serrant un mouchoir dans ses mains comme ça. Elle dit, « Je sens que le monde va éclater et je... » Et des choses comme ceci. Je restais tranquillement assis. Je dis, « Maintenant, il y a une chose au sujet. Vous avez quelque chose, quelque part dans votre vie. Non, je suis une monitrice d'école du dimanche. » Je dis, très bien, je restais ainsi quelques instants à l'observer. Je dis, je vois une petite voiture verte, et vous êtes avec un homme blond, et un train tamponne presque la voiture. Elle dit, je ne dis surtout à personne. Je dis, votre mari était dans l'armée à ce moment-là. Elle commence à pleurer, tout en sautant sur ses pieds. Je ne dis surtout à personne. Voyez-vous, c'était là, tout au fond de son subconscient. Elle dit, j'ai confessé cela à Dieu il y a longtemps. Je dis, juste une minute, ce n'est pas contre Dieu que vous avez mal agi, mais c'est vis-à-vis de votre promesse de mariage. Vous devez retourner vers votre mari et mettre cette chose en ordre premièrement. Elle dit, il me quittera. Je dis, Dieu vous a quitté de toute façon. Ainsi maintenant, par lequel des deux préférez-vous être abandonné? J'ajoutais, allez vers lui. Elle dit, oh je veux, il ferait ceci, et j'ai deux enfants. Je dis, eh bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Les psychiatres n'ont jamais pu vous arracher cela, mais le Saint-Esprit l'a révélé. Et je ne vous ai jamais vu de ma vie. Elle dit, c'est absolument exact. Mais dit-elle, je ne peux tout simplement pas le lui dire. Je dis, eh bien, je compte vous avoir rencontré et je passe dans une autre pièce. Puis elle est revenue. Madame me dit, elle se demande à nouveau. J'y allais, je dis, que voulez-vous? Et elle dit, frère Branham, je ne peux pas raconter ça à mon mari. Je dis, votre mari est un homme aux cheveux noirs. Oui. Je dis, il a la même chose à vous confesser. Elle dit, oh non, pas mon mari. Je dis, vous feriez mieux d'aller le chercher, de venir ici. J'ajoutais, connaissez-vous une certaine femme qui porte une robe rose et qui travaille au bureau d'une certaine compagnie d'automobile? Certainement, dit-elle. Je dis, ne l'appelle-t-il pas d'un certain nom? Oui. Je dis, il y a 2 semaines, ils étaient assis sous un hêtre sous une petite Chevrolet brune portant tel et tel numéro d'immatriculation. Ils ont commis le même acte. Elle dit, pas mon mari. Je dis, très bien, allez le chercher, venez ici. Elle partit. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son mari. Il dit, c'est la vérité. Je dis, vous voyez, maintenant, allez le dire à Dieu. Mais premièrement, quand vous venez à l'hôtel et vous souvenez d'une chose qui n'est pas en règle, allez d'abord l'arranger. Aussi longtemps que l'autre partie en cause est coupable de ne pas dire à sa femme, cette femme s'est expliquée. Maintenant, cela la concerne, elle et son mari. Mais cet autre homme et sa femme doivent mettre cette chose en ordre. Et vous ne pouvez pas, peu importe ce que vous faites, cela vous poursuivra aussi longtemps que vous vivez, jusqu'à vous les nettoyer complètement. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Confessez-le. Si cela vous arrache la peau, faites-le quand même. Dites la vérité. Alors vous avez fait la chose correctement. Amen. Je peux entendre beaucoup sur la bande dire, c'est faux. Mais essayez-le donc une fois et voyez si ce n'est pas juste. Très bien. Question pour dimanche matin. Je suis désolé qu'il soit si tard, mais à l'instant où l'on reçoit le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Est-ce que la personne parle en langue? Si ce n'est pas toujours le cas, quelle manifestation y a-t-il? Eh bien, pourriez-vous imaginer une mère qui donne naissance à un enfant sans savoir? Il faudrait qu'elle soit inconsciente pour ne pas le savoir. De même, vous ne pouvez recevoir le Saint-Esprit sans savoir. Il y a quelque chose qui se passe en vous, voyez-vous. Il y a quelque chose qui vous change. Tout votre système spirituel est renouvelé. Et vous devenez une nouvelle créature en Christ, comme la Bible définit une nouvelle création en Christ. Vous le savez. Maintenant vous dites, frère Branham, alors vous ne croyez pas qu'un homme devrait parler en langue pour recevoir le Saint-Esprit? Pas pour prouver qu'il a le Saint-Esprit. Je désirerais que chaque membre de mon église parle en langue. J'aimerais qu'il fasse cela. Et je crois que si vous le demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je connais une foule de gens qui parlent en langue et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas un ministre qui est sincère avec lui-même et son assemblée qui ne lui dira la même chose. Le diable peut imiter cela. Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je donnerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, quand je comprendrai tous les mystères de la parole, quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, et toutes ces choses, s'ils n'est pas la charité, je ne suis toujours rien. Quand j'aurai la foi pour transporter des montagnes, etc., je ne suis toujours rien. Ensuite, il a dit, ce qui est partiel disparaîtra quand ce qui est parfait sera venu, ou bien quand ce qui est parfait sera dévoilé.
Amen.
Maintenant, j'ai une question là-dessus. J'espère y arriver ce soir. Au sujet de ce qui s'est passé lorsque les sceaux s'ouvrirent. Je pense peut-être que cette chose sera claire pour vous à la suite de cette question. Question, frère Branham, qu'allons-nous faire? Quelque chose dont je ne puis me défaire s'est emparé de moi l'automne dernier. J'ai rêvé que j'étais perdu dans des sables blancs. Il commençait à faire sombre et je ne pouvais pas retrouver mon chemin. Ce songe ne m'a pas quitté depuis l'automne dernier. Maintenant, je suis comme quelqu'un qui tâtonne dans le noir. Mon fils, E.R.V. Ordin, et sa femme figuraient également dans mon songe. Maintenant, eux aussi broient du noir. Nous sommes poussés à bout. Je crois que Dieu vous montrera ce qu'il y a maintenant dans nos cœurs. Madame, oh, très bien. Si nous avons tort, ou que nous sommes dans le péché, dites-nous, nous voulons être en ordre. Je ne connais pas cette dame. Mais je sens simplement, si vous êtes ici, madame, que votre trouble est le suivant. Vous avez laissé quelque chose vous arriver qui vous a rendu nerveuse. Parce que le fait de vous trouver dans des sables blancs indique la pureté et la justice. Et vous vous laissez simplement avoir par Satan. Votre songe prouve qu'il n'y a là rien de faux. Vous êtes seulement nerveuse. Et en faisant ceci, et en pensant ceci, vous rendez nerveux le reste de votre famille. Arrêtez de faire cela. Réclamez les droits que Dieu vous a donnés.
Amen.
Votre sens prouve, par l'interprétation, que vous êtes dans des sables blancs. Tout est en ordre. C'est vous, personnellement, qui êtes nerveux. Et si vous laissez un membre de la famille devenir nerveux, cela passe ensuite au suivant et continue de l'un à l'autre, et bientôt vous êtes tous en train de vous chamailler. Et si l'un des membres de la famille est un peu contrarié à propos de quelque chose, c'est en contrarié un autre, et ainsi de suite, et bientôt vous réalisez que toute la famille est contrariée. C'est Satan. Alors si un membre de la famille se réjouit, que tous les autres se réjouissent avec lui. Ainsi que chacun essaye de faire cela. Que chacun de vous, au fond, essaye d'aider papa et maman. Maman, vous, papa, essayez d'aider vos enfants. Ne laissez pas cet esprit sombre et incrédule s'approcher de vous. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez les droits que Dieu vous a donnés. Et la Bible dit que ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Ne pensez pas aux choses mauvaises. Et, chers sœurs, je pense que c'est là votre trouble. Je pourrais mettre longtemps là-dessus, mais selon ce que j'ai promis, juste 20 minutes, et j'aimerais en prendre autant que, si ce n'est pas cela, déposez à nouveau votre question sur la chair et j'y reviendrai. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu était le Fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne, mais je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un Fils de l'homme. Il y a une grande différence. Jésus-Christ était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question était posée par cette personne, probablement, c'est que les gens me considèrent comme un voyant. Ce que je n'ai jamais... J'ai une question où l'on m'attaque violemment ce sujet, voyez-vous. Mais lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi je réponds aux choses de la façon dont je le fais, jusqu'à ce que je sois définitivement conduit à faire quelque chose. Voyez-vous, je dirai alors ce que je dois dire, mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Ainsi, je ne suis pas le Fils de l'homme, loin. Je ne prétends pas être son prophète. Il y a des fois, je l'ai dit sans m'en rendre compte, je le retrouvais en écoutant la bande. Mais je dis parfois cela parce que, si vous voulez en exprimer le sens, le terme anglais correspondant à prophète est simplement prédicateur. Tout le monde sait cela. Consultez le dictionnaire. Voyez-vous, un prophète est un prédicateur, selon le dictionnaire anglais. Mais selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant, quelqu'un qui voit les choses d'avance et les prédit. Mais selon l'interprétation anglaise, un prophète est un voyant. Ainsi, je ne désire pas m'appeler autre chose que votre frère. Je suis votre frère, et considérez-moi simplement comme frère Bill ou frère Branham, ou comme vous le voulez. C'est en ordre. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même, voyez-vous. Et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens si pris par ces questions-là que j'oublie de quoi il s'agissait premièrement. D'une autre, elle était, est-ce que j'étais le Fils de l'homme? Et la voici, je crois. Le Fils de l'homme, ou était-ce la colonne de feu qui était le Fils de l'homme? Non, la colonne de feu est l'onction. La colonne de feu, maintenant ceci va peut-être aller un peu profond, sauf pour certains d'entre vous, théologiens comme le Dr. Vail, et probablement ce frère ici, et certains de ses frères de l'Arkansas, et mes bons amis tout autour qui connaîtront probablement cela. Cette colonne de feu est le Logos, qui est sorti de Dieu. Le Logos, lequel est, en fait, l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui sortit. S'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos, qui était au-dessus d'Israël, il était saint, il ne pouvait pas supporter le péché, il dut y avoir une offrande de sang en Éden même. Puis ce Logos devint chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans un corps humain, qui était le sacrifice. Quand l'homme fut fait à l'image de Dieu, et ensuite Dieu descendit dans l'image d'un homme, pour racheter l'homme, cela réunit l'homme et Dieu. Les cieux de la terre s'étreignirent et se donnèrent un baiser. Dieu et l'homme s'embrassèrent en tant que père et fils. Lorsque le Logos devint chair, et habita parmi nous. Jésus a dit, je suis venu de Dieu, et je m'en vais à Dieu. Est-ce juste? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, que son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Je ne veux pas dire que Dieu a une droite, car Dieu est esprit. Mais à la droite signifie avec la puissance et l'autorité de Dieu, afin que tout ce qui est dans les cieux soit nommé d'après ce nom et lui soit soumis, et que tout ce qui est sur la terre soit nommé d'après lui et lui soit soumis. Un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Maintenant, ce Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction, au travers de la grâce sanctifiant du sang, amena de nombreux fils à Dieu, lesquels sont loin du même Logos. Maintenant, au jour de la Pentecôte, elle descendit, cette colonne de feu, et elle se sépara comme cela, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Non pas leurs langues, mais des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Un groupe élu, choisi. Ils furent identifiés par cette colonne de feu, montrant que Dieu s'était séparé et était venu dans l'homme. Le saisissez-vous? Dieu, le Logos, se séparant et venant dans l'homme. Dieu, non pas dans une seule personne, mais dans son Église universelle. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez davantage. Or, je sais que la version du roi sage dit de plus grande, mais la traduction exacte là est, vous en ferez davantage. Dieu était confiné dans un homme, Jésus-Christ, mais maintenant il est confiné dans l'Église universelle entière du Dieu vivant.
Amen.
En ce moment, pendant que Dieu est ici en train de parler à nos cœurs, il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe, il est en Angleterre, partout les croyants sont réunis ensemble. Il est là au milieu d'eux. Maintenant, après sa mort, son ensevelissement et son ascension, et la venue du Saint-Esprit, comme il s'en allait sur le chemin de Damas, Paul, qui était alors seul, fut projeté à terre par une colonne de feu, le Logos. Et ce Juif n'aurait jamais appelé cette colonne de feu Seigneur, s'il n'avait su que c'était le même Logos que son peuple suivit au travers du désert. Voyez-vous, ce n'était pas le Fils de l'homme, c'était le Logos. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, amour et respect. Voyez-vous, comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et aussi que dans les derniers jours, ce qui arriva avant Lot ou du temps de Lot à Sodome arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera à nouveau, se faisant ainsi connaître. Or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, ce Jésus qui est venu de la colonne de feu et y est retourné, est descendu sur la terre pour... J'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Ils ne croiraient pas cela si vous le leur disiez. Cela reviendra absolument même. Les hommes ne croiraient pas. C'est pourquoi je ne vais pas le dire. Il est donc descendu pour, comme si une enquête en vue du jugement était en cours. Et maintenant, cette grande colonne de feu, qui est absolument identifiée, même scientifiquement, par des caméras, se trouve ici sur la terre aujourd'hui. Voici sa photographie suspendue là. Je crois qu'il est toujours. Est-ce exact? Est-elle là? Prouvée scientifiquement par l'homme le plus capable que nous avons. George Lacy, le chef du FBI, pour les empreintes et documents à déclarer. J'ai appelé cela moi-même de la psychologie, révérend Branham. Mais dit-il, la lumière a frappé l'objectif. Je l'ai mis sous les rayons ultraviolets. Et je l'ai examiné ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif. Et cet objectif ne captera pas de la psychologie. Ainsi, cela est identifié. Ensuite, observez les œuvres qu'elle fait. Elle confirme parmi nous le même Jésus qui jadis vécu en Palestine. Le même esprit qui était sur lui est monté au travers d'un corps. Jusqu'à ce qu'il soit revenu à la tête. Elle va bientôt venir réclamer le corps. Amen. La tête venant vers le corps. Le saisissez-vous? Ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Je suis, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin. Je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui. c'est ce qui se trouvait sous forme d'esprit sur le Fils de l'homme, voyez-vous, et qui est venu maintenant pour oindre les fils de l'homme et ramener un ministère exactement comme il l'a annoncé, afin que la tête et le reste du corps se rejoignent. C'est semblable à la pyramide qu'Enoch construisit. Et nous découvrons qu'ils n'ont jamais placé de pierre fêtière sur cette pyramide. Pourquoi? Parce que la pierre fêtière doit encore venir. Les sept marques dans la pyramide. Nous étudierons cela un jour, et je désirais vous montrer comme tout cela concorde parfaitement avec l'Écriture. Et maintenant, si vous remarquez sur le billet de 1 $ américain, il y a une grosse pierre fêtière, puis un œil, et il est écrit le grand sceau. Cela viendra. Et remarquez ces pierres. Quelqu'un ici a-t-il déjà visité les pyramides d'Égypte? Eh bien, si vous remarquez, il y a des mains qui se sont levées là derrière. Très bien. Ces pierres reposent ainsi parfaitement. Et à ce sommet où se trouve cette sorte de coupole, lorsque cette pierre viendra, ce sera comme un gros diamant s'ajustant parfaitement au reste. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster sur ce fondement de base, ni sur le deuxième fondement ou le troisième fondement. Elle s'ajustera seulement sur le fondement du sommet, lorsque l'édifice complet se sera ajusté à la pierre. Et Jésus ne peut pas venir avant que l'Église, ce corps de croyants, et le ministère qui nous a dit devra être le même, afin de... Et alors cela amène, eux sans nous n'ont pas été rendus parfaits, dit Paul, dans l'être 11. Sans nous ne peuvent faire venir la perfection. Elle doit avoir ce ministère, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens, et tous les autres au travers des âges. Lorsque cela viendra, dans cette partie-là, où les ailes se sont assemblées, là où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles, était la question. Oh, c'est tout simplement parfait. J'espère que cela répond à la question. Frère Branham, Satan peut-il utiliser le don des langues ou de prophétie chez une personne qui a le Saint-Esprit? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Si cela doit être surveillé de très très près, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 14-29, vous qui voulez l'inscrire, voyez-vous, la personne qui a écrit ceci n'a jamais signé. Elle dit simplement « Dieu vous bénisse ». Voyez-vous, dans 1 Corinthiens 14-29, nous découvrons que n'importe quel don dans l'Église doit être jugé premièrement. Voyez-vous, vous devez veiller parce que des mauvais esprits s'existent. Car souvenez-vous que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui fut envoyée pour faire mûrir le blé fait aussi mûrir l'ivraie. La même eau. Combien savent cela? Alors cela devrait vous éclairer sur la semence du serpent et sur la façon dont est venu ce fils. J'essaie de trouver cette question ici, d'y répondre avant que mon temps ne soit écoulé. Mais je n'y arrive pas. C'était à propos du rapport qu'il y avait entre ce fils et la semence du serpent. Voyez-vous, Dieu a une loi. Or, au sujet de cette loi de l'esprit de vie, vous devez prendre garde parce que Satan s'y glisse. Et Paul, lorsque quelque chose était révélé à quelqu'un, cela devait être jugé par 2 ou 3 juges au moins, avant que ça puisse être dit devant l'Église. Or, pendant que j'en suis là, je vais peut-être dire ceci. Je vois que je ne pense pas que mon frère soit ici ce soir, mais quelqu'un s'est moqué d'une personne qui a quitté le tabernacle pour aller se joindre à l'église de frère Junior Jackson. On a dit, ils sont allés chez les oiseaux morts. N'avez-vous pas honte de faire une telle remarque? Si vous êtes ici, mon enfant Christ, j'ai honte de vous. Ne faites pas une telle chose. Junior Jackson est mon frère. Don Ruggle est mon frère. Eh bien, la raison en est que lorsque je suis revenu et que j'ai placé l'église ici dans un certain ordre pour voir s'il faut obtenir la manifestation des dons, la moitié d'entre eux se retirèrent. Parce que lorsque vous mettiez à parler, à prêcher ou à faire quelque chose, cela était rendu au point où vous pouviez difficilement prêcher sans que quelqu'un parle en langue et interprète, et la moitié de ce qu'il disait n'arrivait même pas. Or, je crois dans le parler en langue, je crois dans l'interprétation, mais ce doit être quelque chose qui s'adresse directement à l'Église, non pas « le Seigneur vient bientôt » ou quelque chose ainsi, c'est correct, mais n'usez pas de vendredi, a dit Jésus, comme le font les païens. Cela doit être quelque chose comme « allez dire à frère tel et tel une certaine chose qu'il a faite » et de « eh bien, allez dire à sœur tel et tel que lorsqu'elle fit une certaine chose là-bas l'autre jour, elle transgressa les lois maritales, son serment vis-à-vis de son mari. À moins qu'elle mette les choses en ordre, le Saint-Esprit la retranchera. » Là, vous avez le « ainsi dit le Seigneur ». Alors, déclarez ce péché. C'est alors que nous avons une église comme celle qu'il y avait lorsqu'Ananias et Saphira rentrèrent. Alors nous avons une église qui tient solidement. Vous dites, oh frère Branham, quelqu'un qui s'est raconté cela me dit, eh bien, vous nous visez un peu trop. Je dis, ne puisse pas viser lorsque je suis sur l'estrade devant des étrangers que j'ai jamais vus de ma vie. Mais j'ai foi et confiance dans mon Dieu qui m'a envoyé pour faire ceci. Et pas une seule fois, cela n'a été faux. Et cela ne sera jamais aussi longtemps que cela vient de Dieu. C'est vrai. Ce n'est pas le fait de parler en langue ou autre. Je crois que ces langues et les gens qui ont ces dons, qui sont de véritables authentiques chrétiens, et qu'ils s'intéressent à cela, ils se réuniront, donneront leur langue et interprétation, et verront ce qu'ils peuvent faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils ont un ministère qui leur est propre, mais celui-ci n'a rien à faire ici, au milieu de l'auditoire, où l'on traite avec les pécheurs. La Bible dit, ils diront que vous êtes des illettrés. Parfois, ils deviennent si irrévérents à l'égard de cela. Ce n'était pas le cas de notre groupe, mais je les ai laissés faire pendant quelque temps, et j'ai dit, surveillez cela. C'est donc dit aux frères, il y a ici qui en sont témoins, laissez cela tranquille. Après quelques temps, nous verrons si c'est de Dieu ou non. Si cela ne peut pas supporter le châtiment, alors c'est un enfant illégitime. C'est exactement ce que dit la Bible. Et lorsque le châtiment est venu, que s'est-il produit? Vous l'avez déjà dit il y a quelques temps, voyez-vous? Demandez au pasteur ici, il a dit, que n'est-il de ceci et de cela? Je répondis, laisse cette chose tranquille, ce sont des bébés, nous ne pourrons pas juger cela. Mais regarde bien, lorsque ce sera vraiment confronté avec la parole. Maintenant, frère Junior Jackson avait le droit de ne pas être d'accord avec cela. Il désire que son église, les gens veulent tous parler en langue et faire ces choses parmi l'auditoire. C'est le problème de ce frère Junior. Cela le regarde. Mais Junior Jackson croit ce message, comme n'importe quel d'entre nous. Il est un des nôtres, et ce n'est pas être un oiseau mort que d'aller là-bas. Junior Jackson est un homme de Dieu que j'aime de tout mon cœur. Il n'est pas ici ce soir, ainsi je peux réellement exprimer cette chose comme je le désire. Et Don Dragon, je ne pense pas que Don soit ici ce soir, parce qu'ils ont leur propre église. Mais si je voyais tous les gens qui viennent à ce tabernacle sortir et s'en aller chez Don Raddle ou chez frère Panel ou chez n'importe quel de ses frères ici, qui sont nos frères et nos concitoyens du royaume, je serais si heureux que je ne saurais que faire. Je dirais, Seigneur, remplis celui-ci à nouveau. Visons-le et remplissons-en un autre. J'aimerais cela. J'aimerais voir ces garçons. Ce sont mes enfants. Or, J.T. ou n'importe quel d'entre eux n'a pas à croire exactement comme moi. Ils n'ont pas à faire cela. Comme je vous l'ai dit ce matin, je ne suis même pas d'accord avec ma femme, ou elle n'est pas toujours d'accord avec moi. Que serait-il si je me mettais à table et que Junior ait une tarte aux pommes et que j'ai une tarte aux cerises? Eh bien, frère, nous mangeons tous les deux de la tarte. Nous serons d'accord sur ce point-là. Mais, elle nous prêtons tous les deux le même évangile. La discipline de son église, vous savez, Pierre et Paul avaient des différends, non pas dans leur doctrine, mais sur la façon dont Pierre se comportait personnellement. Ils eurent un peu des différends à ce sujet, mais cela ne les a jamais séparés. Ils étaient frères. Oh, bien sûr que nous allons avoir des différends. Non pas des différends, je ne suis pas d'accord avec les assemblées de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec leur système. Mais il y a plus d'un précieux frère dans les assemblées de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la doctrine des unitaires. Mais beaucoup parmi ceux-ci sont de précieux frères. Je ne suis pas d'accord avec les baptistes, avec les presbytériens et leur système. Mais parmi eux se trouvent de véritables chrétiens. J'ai retrouvé cet après-midi, je ne sais trop comment, un télégramme que je n'avais pas vu. Un frère qui est prédicateur baptiste dit qu'il avait cherché depuis longtemps à venir à un endroit ou arriver à un endroit où l'on respecte vraiment Dieu. Et un précieux frère qui fréquente cette église lui dit, je vous amènerai dans un tel endroit. Il désire ardemment venir ici. Un baptiste. Voyez, ils sont dispersés partout. Je ne serai pas d'accord avec leur système, mais j'aime certainement ce groupe. Ainsi, ne dites pas cela au sujet des frères. Maintenant ici, ces dons doivent être surveillés. Aucun don. Vous devez surveiller cela. Satan peut imiter n'importe quel don. Regardez ces Beatles qui s'en vont maintenant imiter la guérison divine. Cela est corrompu, sale, pourri et issu de l'enfer. Voyez-vous? Très bien. Daniel fut-il le quatrième homme de la fournaise ardente, étant donné qu'il était le prophète de cet âge-là? Non, c'était Jésus. Le quatrième homme était semblable au Fils de Dieu. Je ne pense pas que c'était le prophète parce qu'il se trouvait dans la fosse au lion. Je ne croirais pas, donc pas, que Daniel fut de la fournaise ardente. Je peux difficilement... Maintenant, vous pourriez avoir raison, mais c'est simplement mon opinion. Frère Branham, dans Genèse 6 et le verset 12, Dieu dit que toute chair avait corrompu sa voix. Est-ce que ceci se réfère au mariage et divorce? Si oui, Jésus ne se référera-t-il pas à la même chose que qu'il a dit dans Matthieu 24, versets 38 et 39? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Frère Branham, y aura-t-il des enfants qui naîtront pendant le millénium? ce règne de Christ de 1000 ans ici sur terre? Ou y aura-t-il un signe quelconque sur la terre, un péché quelconque, pardonnez-moi, sur la terre durant ce temps-là? Et y aura-t-il à ce moment-là des gens sur la terre dans des corps physiques? J'essaierai de traiter rapidement de ces questions. Dans Genèse, chapitre 6, verset 12, Dieu dit que toute chair avait corrompu, oui, c'était le mariage, le divorce, et toutes les autres choses. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, où il se mariait, était donné en mariage, et ainsi de suite. C'est un des signes de la fin des temps. Seulement un des signes. Maintenant, c'était tout ce que le monde faisait. Je ne pourrais pas appeler cela l'évidence de la fin des temps. Pas plus que je ne peux appeler le parler en langue l'évidence du Saint-Esprit. Il est vrai. Il est censé venir un temps où le mariage et le divorce seront juste comme il était au temps de Noé. Mais il y a tant d'autres choses qui accompagnent cela, c'est seulement un des signes. Et le parler en langue est un des signes du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un signe infaillible du Saint-Esprit, pas plus que les hommes et les femmes se marient, puis divorcent et se marient à nouveau. Cela ne serait pas le seul signe. Si c'était là le seul signe qu'il y avait, je ne pourrais pas l'appeler ainsi. Voyez-vous, il y a d'autres choses qui doivent accompagner le parler en langue ou un autre don pour montrer que c'est de Dieu. Maintenant, y aura-t-il des enfants qui naîtront dans le millénium, ce règne de mille ans? C'est la question que je me pose moi-même, et dont je vous ai parlé l'autre jour. Je ne sais pas. Il semble que je pourrais très bien que oui, et il semble que je pourrais très bien que non. Je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, cela doit venir de Dieu. Vous êtes mes enfants. Je ne vous dirai pas. Je ne sais pas s'il y en aura ou pas. Je ne peux vous dire. Ou y aura-t-il le péché sur la terre durant ce temps-là? Non, il n'y aura pas de péché sur la terre, Satan est lié. Et y aura-t-il à ce moment-là des gens sur la terre dans les corps physiques? Oui, monsieur, nous aurons nos corps glorifiés ici même, sur la terre. Nous mangerons, boirons, bâtirons des maisons et vivrons pendant 1000 ans exactement comme nous le faisons maintenant. C'est la lune de miel de l'épouse et de l'époux. Frère Branham, que voulait dire Jésus dans Matthieu 12, verset 32, lorsqu'il dit « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Veuillez, s'il vous plaît, m'expliquer ces versets de l'Écriture. Merci. Et il y a le nom de cet homme. C'est un ministre. Très bien. Frère, vous êtes un théologien, je n'en suis pas un. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que Jésus a dit, « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. » En d'autres termes, pour relier cela au reste de l'Écriture, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de se moquer de lui en parlant, en le ridiculisant. Lorsque vous faites quelque chose comme cela, c'est à ce moment-là que vous franchissez la ligne entre le bien et le mal. Maintenant, si vous voyez le Saint-Esprit, par exemple, dans ce cas-ci, le Saint-Esprit descendait ici et discernait comme il le fait. Que ce soit bien le Saint-Esprit et que vous ne le croyez pas, sortez en vous moquant de lui et en parlant de lui à la légère. Peu m'importe ce que vous pourrez bien faire une fois, vous êtes fini. Et vous ne pouvez pas le faire. C'est justement là la preuve que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure dans l'homme et ne peut pas pécher. Et qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Lorsqu'il voit la parole rendue manifeste, il la croit. Et il peut seulement... Voyez-vous, il y a seulement un péché. Seulement un. Combien ça fait cela? C'est l'incrédulité. C'est vrai. Commettre adultère n'est pas un péché. Fumer des cigarettes, mentir, jurer, ce n'est pas le péché. Ce sont des attributs de l'incrédulité. Vous le faites parce que vous n'êtes pas un croyant. C'est vrai. Ainsi, voyez-vous, il n'y a qu'un péché, et c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Peu importe ce qu'il fait, dès le départ, il est condamné. Très bien. Frère Branham, est-ce faux pour une jeune personne qui n'est pas mariée? On ne dit pas exactement de qui il s'agit. De couper ses cheveux. J'imagine que c'est une femme. Oui, c'est faux pour n'importe quelle femme de couper ses cheveux. C'est juste une petite question. Commencez-vous à avoir sommeil? Eh bien, nous irons aussi vite que possible. J'essaie tellement d'arriver à cette semence du serpent. Priez pour notre fils dans... C'est une requête de prière. Je viens juste les prendre en passant. Frère Branham, est-il permis aux femmes de travailler dans les affaires publiques quand elles ont un mari en bonne santé et des enfants? Je pose cette question pour quelqu'un d'autre. Eh bien, à propos de cette chose, je ne sais pas. Je ne peux dire. Mais voici simplement mon opinion. Laissez-moi vous dire ceci. Je crois que si j'étais une femme et que je sache que mon mari est en bonne santé, qu'il a un bon emploi, Je crois que j'aurai beaucoup de plaisir à rester à la maison, à prendre soin de mes enfants, à les élever et à leur apprendre à aimer le Seigneur. Et si j'avais du temps de libre après la lecture et mon ouvrage, je pense que j'apprendrai à mes enfants à servir le Seigneur. Maintenant, si vous avez une dette ou que vous essayez d'aider votre mari à payer quelque chose ou une certaine chose que vous devez faire, si, eh bien, je pense que c'est en ordre. Si vous essayez de l'aider, et comportez-vous de manière distinguée. Je pense que c'est difficile. Aucun homme compréhensif ne désire que sa femme se trouve parmi une bande d'hommes vulgaires et grossiers. Mais s'il doit en être ainsi, je pense que son mari devrait savoir qu'elle est une véritable chrétienne. Une femme digne de confiance. Toutefois, de dire qu'elle ne devrait pas travailler, je ne sais pas. Voyez-vous, il n'y a aucun passage de l'Écriture pour soutenir cela. Je vous fais simplement part de mon opinion. Mais je pense que si une femme désire travailler, or je suis certainement contre les femmes qui travaillent dans ces bureaux où tous ces hommes d'affaires se conduisent mal et racontent des plaisanteries grossières. Et qu'une femme propre et distinguée soit assise là, au milieu de tous ces propos obscènes et vulgaires, je suis contre cela. Je pense
que vous devriez sortir d'une telle atmosphère. Mais si une femme peut se conduire comme une vraie dame et qu'elle essaie d'aider son mari à faire face à payer des vêtements aux enfants pour aller à l'école ou une facture ou quelque chose comme cela et qu'elle veut travailler jusqu'à ce que cela soit réglé, maintenant, ceci n'est pas le Seigneur, car je n'ai pas de passage de l'Écriture à ce sujet. Je vous exprimais simplement mon opinion. Mais s'il n'est pas le cas et qu'elle veut travailler simplement pour pouvoir courir à gauche et à droite et avoir plus d'argent à dépenser, pour sortir et aller dans les bars ou pour boire, fumer, etc., je pense qu'elle ne devrait pas le faire. Je pense qu'elle devrait rester à la maison et essayer d'être distinguée, tout en s'occupant de son foyer. Si Jésus, dans un deuxième... Non, si Jésus... Si vous en êtes à un deuxième mariage, où les deux personnes sont divorcées, la repentance, est-ce que la repentance suffit, ou faut-il dissoudre le mariage pour être en ordre? Si vous en êtes à un deuxième mariage, où les deux personnes sont divorcées, je pense que j'ai déjà répondu à cela. Oui, j'y ai déjà répondu. Là où les deux personnes sont, je souhaiterais que nous n'ayons pas traité ces choses. J'ai des amis qui sont assis ici, dans cet auditoire, que je sais, cela me brise presque le cœur de dire ceci, mais je dois le dire, voyez-vous. Et le monde est dans un tel état de corruption. Une pauvre et brave petite femme fera une faute et épousera un alcoolique. Elles tourneront ainsi, ou un pauvre homme qui aura épousé une prostituée sans qu'il l'ait su, sera ensuite lié à cette femme, ou cette femme à cet homme, aussi longtemps qu'ils vivent. C'est horrible. Le mariage est une chose sacrée. Souvent de jeunes pêcheurs s'engagent là-dedans et font ces choses-là, et se demandent ensuite où ils en sont. Je crois que si le Seigneur me permet d'expliquer ce mariage et divorce de la façon correcte, cela résoudra beaucoup de ces choses. Tout cela est... Nous voyons... Pourquoi ne pouvons-nous pas vendre notre maison? Merci. Nous, PS, nous avons prié et jeûné à ce sujet, et jusqu'ici, pas de résultat. Eh bien, frères ou sœurs, ils n'ont pas signé. Mais qui que vous soyez, si vous essayez de vendre votre propriété, et vous avez fait ce que vous désirez la vendre pour probablement acheter quelque chose de mieux, ou faire je ne sais quoi, si votre objectif est droit, et que vous essayez d'acheter une maison, si vous avez des enfants ou quelque chose comme cela, et que vous voulez leur offrir une meilleure demeure ou quelque chose... Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vous dirai ceci. Si vous essayez de la vendre, que vous jeûniez tout en cherchant à la vendre, alors remettez cette chose au Seigneur et n'y pensez plus, voyez-vous, parce qu'il se peut que Dieu, il se peut que vous déménagiez quelque part d'autre et que cela ne soit pas juste, voyez-vous. Si vous êtes un chrétien et que vous vous confiez dans le Seigneur, ce que vous êtes certainement, sinon vous ne vous mettriez pas à jeûner à prier ainsi, je remettrai alors simplement cela au Seigneur. Dites, maintenant Seigneur, quand cela sera le moment pour nous de la vendre, envoie-nous un acheteur. Vous l'avez remis au Seigneur, alors n'y touchez plus et allez de l'avant. Je crois que ça va marcher. J'accélère un peu parce que le temps me manque. Frère Branham, est-ce faux pour une femme de friser ses cheveux? J'ai déjà répondu à cela. Bien sûr, allez-y, peu m'importe, seulement gardez vos cheveux longs. Voyez-vous, je sais que vous êtes, ce n'est pas mon intention de plaisanter avec vous, sœur. Voyez-vous, vous êtes sincère, vous voulez savoir et vous me le demandez. Vous avez confiance en moi et vous me le demanderiez pas. Maintenant, moi, j'ai confiance en vous, sœur, et je crois que si je vous disais quelque chose, vous le feriez. Je ne peux pas soutenir cela avec l'Écriture. Si vous voulez, si vous n'avez pas une jolie chevelure bouclée, étant une femme, et que vous vouliez paraître jolie pour votre mari, pour votre ami, ou quelque chose comme cela, je ne peux rien vous dire pour ce qui est de vous friser les cheveux, ou comment ont-ils appelé cela? L'éteindre, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est votre affaire, voyez-vous. Demandez simplement au Seigneur ce qu'il faut faire. Il vous le dira. Parce que j'essaie d'expliquer les choses par l'Écriture, voyez-vous. Veuillez, s'il vous plaît, expliquer en Corinthiens 13, 8 à 12. Maintenant que la parole parfaite est restaurée à l'Église, ces versets se sont-ils accomplis? Je pense que j'ai déjà traité de cela, n'est-ce pas? Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Paul a dit que je parlerai les langues des hommes et des anges et que je fasse toutes ces choses, mais quand ce qui est parfait sera venu, or y a-t-il quelque chose de parfait si ce n'est Dieu? Non, monsieur. Dieu est-il ce qui est parfait? Au commencement était là, et la parole était avec Dieu, la parole était
Dieu.
La parole est toujours Dieu, voyez-vous? Très bien. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parcel disparaîtra. Frère Branham, est-ce faux d'avoir les cheveux coupés en brosse? Je suppose que c'est un homme, je l'espère. Eh bien, certaines femmes font cela, certainement. Une fois, je montais dans l'autobus à l'époque où j'étais garde-chasse ici. J'étais assis là et un homme parlait comme cela. Il portait une casquette de soudeur et je lui parlais tout simplement. Puis il continuait tout en fumant une cigarette, ses lunettes de soudeur relevées comme cela. C'est juste ici, près de Salisbury. Et comme j'étais assis là lui parlant, il dit quelque chose et nous sommes tous mis à rire. Je lui tapais sur la cuisse et je lui dis, « Eh bien alors, ça c'en est une bonne, dis donc. » Et comme j'étais là, une femme qui était assise en face s'écria, « Dis Ruth, est-ce que tu vas... » Revêtue d'une paire de salopettes, grande et costaude comme un homme, était assise là, fumant une cigarette et en rejetant la fumée par le nez. Je pensais que c'était un homme. Elle parlait de laisser tomber un chalumeau à cette hélène et de faire une certaine chose, frapper quelqu'un sur la tête, faire tomber un certain truc. Elle commence à rire. J'ai ri aussi et je lui ai donné une bonne tape sur la cuisse, pensant que c'était un homme. Je ne voyais pas la différence, car vous ne pouvez plus faire la distinction entre eux. La Bible dit... Toute femme qui portera un habit d'homme est en abomination. Nous y sommes. Non, frère, si vous désirez avoir les cheveux coupés en brosse, eh bien, attendez seulement d'avoir à peu près mon âge. Vous les aurez. Ainsi, c'est en ordre. Je ne voulais pas dire cela comme ceci, mon cher ami. Dieu vous bénisse. Si vous croyez que frère Branham vous dit la vérité, je ne pense pas que Dieu dise quoi que ce soit au sujet de la coiffure de l'homme, pourvu qu'il se coupe les cheveux. S'il laisse pousser sa chevelure comme celle d'une femme, la Bible dit que c'est une honte pour lui de le faire. Mais maintenant, si vous, aussi longtemps que vous avez vos cheveux et que vous êtes un petit garçon, et je sais que j'ai beaucoup parlé là-dessus, et vous, riquise avec vos cheveux coupés en brosse et des choses comme cela, mais je dis seulement cela, voyez-vous. Je ne pense pas que Dieu se soucie de quelle façon l'homme se coupe les cheveux, parce que son chef, c'est Dieu. Mais le chef de la femme, c'est l'homme. C'est pourquoi elle doit, et si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son chef. Alors une femme sans honneur devrait être divorcée et répudiée. Est-ce juste? Ainsi, si une femme coupe ses cheveux, son mari possède un droit absolu de la Bible, de la répudier pour mauvaise vie et comme personne ignoble. Combien savent que c'est la vérité? C'est ce que dit la Bible, parce qu'elle déshonore son chef. Personne ne devrait vivre avec une femme qui n'a pas d'honneur. Frère Branham, quand Ésaïe parlait aux filles de Sion, je pense qu'il veut dire parler d'eux, des filles de Sion au sujet des... bourse, du fait de se friser les cheveux, et qu'au lieu de cheveux bouclés, il y aura une tête chauve, qu'au lieu de... Cela pourrait-il s'appliquer à aujourd'hui, où l'ancienne Bible est-elle périmée, comme certains le disent? L'ancienne Bible est toujours en vigueur, et chaque mot que Dieu dit est efficace. Oui, monsieur, la seule différence qu'il y a entre l'ancienne Bible et la nouvelle Bible, c'est que cette dernière a simplement magnifié les choses. Jésus a dit, vous les avez entendus dire, tu ne commettras point adultère, vous deviez commettre l'acte, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Combien ces choses sont extraordinaires. Chers amis, je dois maintenant terminer. Il se fait un peu tard, cette question est trop longue. Voyons si je peux trouver quelque chose d'autre, voyons. Frère Branham, comment les femmes, oh là là, devraient-elles se coiffer de nouveau? De n'importe quelle façon que vous voulez. 1 Timothée 2,9. Voyez-vous, que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Je désire me coiffer d'une façon qui plaise à Dieu. Dieu vous bénisse, chère sœur. Merci, que Dieu vous bénisse, priez pour nous. Et la personne signe. Certainement, chère sœur Charon, que Dieu te bénisse, porte-les pourvu qu'ils soient longs. C'est une petite fille. Que Dieu te bénisse, mon petit chou. C'est en ordre. Continue simplement ainsi. Après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il des vierges folles qui seront sauvées, ou seront-elles toutes perdues? Non. Voyez-vous, tout sera terminé pour l'Église des nations quand l'épouse sera enlevée de la terre. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. En d'autres termes, le sanctuaire devient rempli de fumée. Là où l'avocat se tient pour plaider la cause, Christ quitte le sanctuaire. Son temps de médiateur est terminé. L'enlèvement a lieu. Il quitte le sanctuaire, s'en va prendre le livre de la rédemption et réclame tout ce qu'il a racheté. Il n'y a plus d'œuvre de médiation. Combien comprennent cela? Je l'ai sur un des sceaux, sur un... les sceaux, je crois que c'était cela, où Christ s'avance pour réclamer le produit de son œuvre de médiation. Maintenant une minute, est-ce que les vierges folles seront sauvées? Non, tout ce qui doit arriver arrive maintenant. Après cela, elles seront dans la condition, or elles auront à traverser la période de tribulation. Et la raison en est qu'elles ont rejeté le sacrifice expiatoire dans sa plénitude. Ce sont des croyantes, elles professent être croyantes, mais elles auront à passer au travers de la période de tribulation. La Bible dit, le dragon lança de l'eau de sa bouche et s'en alla faire la guerre au reste d'entre eux. Oh, quel moment c'est! Il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire où les églises dénominationnelles sont devenues si affamées et désireuses de découvrir le baptême du Saint-Esprit. Je parle pour les hommes d'affaires chrétiens, et c'est constamment que des presbytériens, et des luthériens, des catholiques, et tous les autres, des baptistes par centaines, des gens de l'Église de Christ, des nazaréens, des pèlerins de la sainteté, des adventistes du septième jour, viennent pour essayer de trouver cela. Voyez-vous? Or, ceci est frappant. S'il vous plaît, ne prenez pas cela comme une doctrine, mais comprenez-vous que les Écritures ont dit qu'il se produirait quand cela arriverait? Le temps serait terminé. Parce que, voyez-vous, il y avait 7 vierges, ou 10 vierges, qui allèrent à la rencontre de l'époux, et la moitié d'entre elles avait de l'huile dans leur lampe, l'autre moitié n'en avait pas. C'est la partie du corps qui est morte et la partie qui est vivante. Les 5 sages, lorsque Christ se fit entendre « Voici l'époux », elles se réveillèrent toutes et nettoyèrent leur lampe pour aller au souper des noces. Mais lorsque les vierges folles dirent « Donnez-nous de votre huile, nos lampes se sont éteintes. » Voyez-vous, « Donnez-nous de votre huile. » Elles répondirent « Non. » Car nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Allez en acheter. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Quand il y eut la proclamation, le décret, l'époux arrive, chacun voulut très vite se mettre en ordre. N'est-ce pas l'heure à laquelle il y a l'écriture sur la muraille? Oh, nous voulons le baptême du Saint-Esprit, nous voulons ceci et cela. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Les sages entrèrent et les autres furent laissés dehors, au lieu des pleurs, des grincements de dents. J'ai justement de merveilleuses questions ici qui rejoignent celles-là. Par exemple, quel homme qui entra sans avoir l'habit de noces, ainsi que toutes les questions qui se rattachent directement à cela. Une personne devrait-elle payer la dîme à un individu, ou est-ce qu'un chrétien devrait travailler? Certainement qu'il devrait travailler. S'il y en a un qui travaille, c'est bien le chrétien. Payer la dîme à un individu? Cela dépend de quel individu il s'agit. Voyez-vous, c'est juste. Dans Hébreux 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, de la manière à ce que nous... Attendez une minute, je crois que c'est la question numéro 2. Non, 1-1, non. Pour frère, il est dit 2 questions pour frère Branham. Quand, dans le 7e chapitre des Hébreux, quand Abraham, revenant de la défaite des rois, rencontra Melchisédek, il lui paya la dîme. C'était Melchisédek qui est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice, lequel n'était autre que Dieu lui-même. Mais lorsque vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit le Seigneur. Est-ce juste? Amen. Et éprouvez-moi par ce moyen, dit Dieu. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, elle ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce que vous n'ayez plus assez de place pour la recevoir. J'encourage vivement tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin et vous raconter simplement ce qui arriva quand j'ai vu cela et dans quelles conditions j'étais alors. Mais aussi loyalement que je le pouvais, je payais ma dîme. Et lorsque je prenais de l'église ici ou de mes campagnes l'argent qui me revenait, je prenais plus, je donnais le 10e. Alors je donnais à des ministres et je donnais le reste à des ministres. Et quand je ne pouvais pas faire cela, voici ce que je faisais. Je gardais 10% et donnais à Dieu 90%. Puis lorsque la loi me dit que je ne pouvais pas faire cela, que je devais prendre... que si je le faisais, tout devait être versé là-dessus, alors j'ai dû prendre sur cela et le faire passer dans des œuvres missionnaires à l'étranger, etc. Et prélever un salaire sur cela de $100 par semaine. Et je paye ma dîme là-dessus. Oui, monsieur, je crois au paiement de la dîme. C'est une des bénédictions de Dieu qui a été prouvée comme telle. Vous dites, c'est de l'Ancien Testament, c'est aussi du Nouveau. Oui, monsieur. Cher frère Branham, si un bébé naît hors du mariage, cet enfant peut-il un jour être sauvé ou aller dans l'enlèvement? Sauvé, bien sûr. Je crois que l'enfant pourrait être... L'enfant n'est pas responsable de ce qui a été fait, c'est vrai. Mais je, pour ce qui est de prendre part à l'enlèvement, sauvé, je dirais oui. Mais pour ce qui est de l'enlèvement, ce sont les semences prédestinées qui y participent. Et je ne peux pas croire que cet adultère était une semence prédestinée. Comprenez-vous? Je crois que les gens, que le bébé peut être sauvé, il ne possède aucun droit. C'est un acte terrible. À ce propos de l'Ancien Testament, lorsqu'un bébé avait eu une naissance illégitime, il ne pouvait même pas entrer dans l'Assemblée du Seigneur pendant 10 générations, c'est-à-dire pendant plus de 400 ans, tellement cette malédiction était grande. Pensez un peu à cela, un bébé innocent, ses arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Pensez-y seulement, les arrière-arrière-arrière-dixièmes-arrière-petits-enfants de ce bébé ne pouvaient même pas entrer dans l'Assemblée de Dieu. C'est vrai. Mais voyez-vous, il n'y avait là rien d'assez puissant pour pardonner ce péché-là. Le sang de l'Ancien Testament ne pardonnait pas les péchés, il les couvrait seulement. Mais le sang de Jésus-Christ divorce d'avec lui.
Amen.
Maintenant, c'est différent. Que le sang de Jésus-Christ entre, c'est différent. Frère Branham, nous voulons être aussi près que possible de votre message. Devrons-nous déménager en Arizona ou à Jeffersonville? Faites comme il vous plaira, l'un ou l'autre. Je vous aime assurément, peu m'importe où vous allez, ce que vous faites. Mais si vous voulez mon conseil, je crois que je viendrai habiter à Jeffersonville. Si vous avez l'intention de déménager de toute façon, je viendrai habiter à Jeffersonville. Je crois que je suis plus souvent ici qu'en Arizona, c'est bien. Frère Branham, est-ce trop tard pour prêcher encore aux pécheurs? Non! Non, ne vous mettez pas cela dans la tête, frère. Continuez à construire la maison. Continuez à faire tout ce que vous pouvez. Continuez jusqu'à ce que vous soyez enlevés. Voyez-vous, question numéro 2. Ceux qui sont sauvés, devraient-ils se séparer des pécheurs pour l'adoration? Ceux qui sont sauvés, devraient-ils se séparer des pécheurs pour adorer? Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là. Si vous voulez dire les pécheurs comme ceux du dehors dans le... Vous adorez Dieu partout, mais je pense que si nous faisions ainsi, comment pourrions-nous nous réunir? Parce que les pécheurs viennent justement dans l'église et s'assoient à côté des chrétiens. Ne vous séparez de rien si ce n'est du péché, non pas du pécheur. Amenez le pécheur si vous le pouvez, mais ne prenez point part à son péché. Une épouse qui est sauvée devrait-elle se refuser à son mari si celui-ci est un pécheur? Non, non, c'est votre mari. Vous l'éloignerez de Dieu plus que jamais en faisant cela. Voyez-vous? C'est vrai, frère ou sœur, vous l'avez posé, il vous appartient et vous lui appartenez. Frère Branham, quelle est la signification d'une rupture? Les gens sont-ils libres de se marier ou est-ce simplement un autre mot pour divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Certainement qu'ils sont mariés. Dès qu'ils se promettent l'un à l'autre, ils sont mariés. Si par exemple, un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la loi fait, c'est vous donner un papier vous autorisant à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, « Je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre ?» Il est marié. Votre promesse est sacrée. C'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, aucun magistrat ou rien d'autre qui peut vous marier. C'est votre engagement personnel vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cet homme. Quand vous vous promettez l'un à l'autre, vous êtes mariés. Regardez, vous dites, frère Branham, est-ce que vous avez dit que vous ne répondriez à cela que par la Bible? Voulez-vous savoir ce que la Bible dit à ce sujet? Si oui, levez la main. Maintenant, nous avons environ 6 à 8 minutes. Bien. Joseph, son mari, étant un homme juste, son époux, il était déjà appelé son mari. Joseph, son mari, étant un homme juste, se proposa de la répudier secrètement. Car avant qu'ils fussent ensemble, elle se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voyez-vous, et l'ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. » Déjà mariée, il lui avait déjà donné sa promesse. Et vous, mademoiselle, si vous avez promis à ce garçon de l'épouser, vous êtes obligée de le faire. Si vous en épousez un autre, après avoir pris cet engagement-là, vous, en tout cas à partir de maintenant, vous vivrez dans l'adultère. Et remarquez, c'est pareil pour un garçon qui promet à une femme de l'épouser. Ne faites surtout pas de promesses à qui que ce soit, à moins que vous ayez réellement l'intention de la tenir. Souvenez-vous, il y a la Bible pour confirmer cela. Joseph, premier mari, a de l'épouser, et Dieu dit que c'était... Lisez les lois de l'Ancien Testament à ce sujet. Voyez-vous, dans la loi de l'Ancien Testament, si vous promettiez une femme de l'épouser et que vous épousiez une autre, vous commettiez adultère. Et pour cela, vous êtes expulsé du camp. Oui, monsieur, vous devez tenir votre promesse lorsque vous promettez une femme de l'épouser. Elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Ainsi, lorsque vous le lui promettez, vous devez l'épouser. Est-ce trop tard pour tenir des réunions dans les prisons et pour faire une œuvre de ce genre, afin de servir de témoignage et ainsi essayer de gagner des âmes? Aussi devrait-on vendre tout ce qu'on possède maintenant, comme le Seigneur revient dans si peu de temps. Eh bien, comment est-ce que vous... J'espère que je n'ai rien dit qui vous ferait croire une telle chose. L'ai-je fait? Si c'est le cas, pardonnez-moi. Je n'ai pas l'intention de... Voyez-vous, ne présumez pas simplement ces choses. Allez de l'avant et continuez à prêcher, à avoir des réunions dans les prisons, à donner à tous et ne... Regardez un peu, les adventistes du septième jour ici, il y a environ 50 ou 60 ans, je l'ai vu ici dans le courrier journal, il n'y a pas longtemps, je l'ai ici quelque part dans la malle, dans une malle, et cela occupait une grande partie du courrier journal. Ils ont jeté au rebut les vieilles ailes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient appelés millérites, ceci avant qu'ils deviennent les adventistes du septième jour. Ils remplirent toute une page entière du journal courrier, ici à Franklin au Kentucky, qu'ils vendirent tous leurs propriétés. Et ils fixèrent une certaine date, et prouvèrent par l'écriture que Jésus venait à cette date-là. Ils montèrent donc là, avec leur harpe, etc., et allèrent s'installer sur le sommet de la colline. Lorsque le matin suivant arriva, la rosée avait rabattu toutes les plumes, et ils sont redescendus tout déconcertés. Voyez-vous, il s'agit de sectes et de choses semblables. Ne croyez surtout pas cela. Il se peut que Jésus ne revienne pas avant son temps. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne le sait. Mais je vais essayer de continuer à prêcher, à faire tout ce que je peux, jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'attendrai la semaine prochaine. Et s'il n'est pas ici dans les 10 prochaines années, et que je vis jusque-là, je l'attendrai dans les 30 prochaines années. Voyez-vous, je serai toujours en train de l'attendre. Je ne sais pas quand il viendra, mais je désire rester fidèle à sa parole et loyal vis-à-vis de son peuple. Vivre comme un chrétien et attendre sa venue. Voyez-vous, continuez à prêcher dans les prisons. Amenons au salut tous ceux que vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra, personne ne le sait. Mais je dirais seulement ceci. C'est pourquoi j'essaie de vous dire, et j'espère que vous n'essayez pas d'y ajouter votre propre interprétation. Je ne réprimande pas cette personne. Que Dieu vous bénisse, frère ou sœur, qui vous soyez. Il semble que c'était quelqu'un de l'extérieur, parce que c'était sur une carte postale qui venait, je crois, de Denver dans le Colorado. Eh, oui, Pikes Peak dans le Colorado. Ah, il se peut que ce soit quelqu'un qui l'ait envoyé par la poste. Mais c'est parfaitement en ordre. Ils pourront peut-être se procurer la bande. Mais souvenez-vous, ne changez surtout rien. Si ce n'est d'abandonner une vie de péché pour une vie de justice. Amen. Continuez à aller de l'avant dans votre travail. Continuez sans autre. Que tous ceux qui comprennent cela clairement disent Amen.
Amen.
Voyez-vous, faites cela maintenant. Frère Branham, dans Matthieu 12, 40, il est dit, « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Comment peuvent-ils dire aujourd'hui que Jésus fut mis dans le tombeau le vendredi soir et qu'il ressuscita le dimanche matin, cela faisant seulement 2 nuits et 1 jour. Maintenant, si vous remarquez, il est dit de même que ce qui arriva, voyez-vous, du temps où Jonas fut dans le ventre 3 jours et 3 nuits. C'est dans l'espace de 3 jours et 3 nuits, dans l'espace de ces 3 jours et 3 nuits, parce que vous ne pouvez pas faire mentir l'Écriture. Le prophète a dit, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni n'abandonnerai son âme au séjour des morts. » Or, la corruption s'installe dans le corps humain en 72 heures, ce qui fait 3 jours et 3 nuits. C'est à un certain moment, au cours de ces 3 jours et 3 nuits, qu'il dut sortir du tombeau. Ainsi, le fait qu'il soit parlé de 3 jours et 3 nuits ne signifie pas qu'il devait en être exactement ainsi. C'est à un certain moment, dans l'espace de ces 3 jours et 3 nuits, qu'il devait sortir. Parce que la prophétie ne pouvait pas être anéantie, celle où l'éthique ne pouvait pas voir la corruption, et c'est ce qui serait arrivé s'il était resté exactement ce temps-là. Frère Branham, si un homme a été marié, divorcé, n'est-ce pas terrible, voyez-vous, qui en est-on? Maintenant, je ne blâme pas ces gens, mais seulement c'est ce qui occupe leurs pensées. Assurément, ils sont troublés. Prenez par exemple l'enlèvement. Les gens n'avaient pas tellement l'habitude d'y penser, n'étaient pas autant question. Mais maintenant, cela a tout simplement envahi le monde. Et les gens lisent ces choses de l'Écriture. Et les élus viennent pour regarder cela. Et ils le voient, et ils sont sincères. Ils désirent savoir. C'est la raison pour laquelle je veux y répondre de la façon la plus sensée possible. S'il était marié et divorcé, et qu'ensuite il s'est remarié une femme qui a aussi été mariée et divorcée avant de l'épouser, ces deux personnes sont-elles mariées aux yeux de Dieu? Comment peuvent-ils être tous les deux ou l'un d'entre eux dans l'enlèvement? Comment? Je ne sais pas. Je ne pourrais vous dire. La question est, peuvent-ils être dans l'enlèvement? Divorcés, chacun d'entre eux divorcés, chacun d'entre eux a un compagnon vivant, puis ils sont mariés à nouveau. Tous les deux se sont remariés. Et maintenant à qui? Cette femme a un mari en vie, cet homme a une femme en vie, et maintenant ils ont des enfants, etc. Ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils être dans l'enlèvement? Cela dépendra du Père Céleste. Je ne pourrais répondre à cela, voyez-vous. J'ai vu une chose, la Bible dit qu'ils seront appelés adultères. Et la Bible dit aussi, un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est tout ce que je peux dire. Je sais, cela me brise tout simplement le cœur de dire cela. Mais je ne peux dire que ce que dit la parole. Je dois rester avec elle. Je souhaite que tout cela soit faux. Il y a des endroits dans la Bible, je ne cherche pas à vous donner un conseil. S'il vous plaît, laissez-moi simplement vous donner un passage de l'Écriture. S'il vous plaît, si vous êtes heureuse avec votre mari, si vous êtes heureux avec votre femme, demeurez s'il vous plaît ainsi. Le ferez-vous? Simplement pour, parce que je vous ai dit cela, ne laissez pas ces petits-enfants sans foyer et des choses comme cela. À certains endroits, Dieu a réparé les fautes que des gens avaient commises. Vous vous souvenez, Jésus a dit de David qu'un jour qu'il était affamé, il entra dans le temple de Dieu et mangea les pains de proposition, ce qui n'était permis qu'aux sacrificateurs et qu'il fut considéré innocent. Les sacrificateurs blasphèment aussi le sabbat, le jour du sabbat, et ils furent considérés innocents. Et quelqu'un de plus grand que le sabbat se trouvait là. Voyez-vous, laissons donc cette chose à Dieu. Allez de l'avant et vivez simplement de la façon dont vous vivez simplement pour Christ maintenant. Amen. Disons qu'il se peut que vous ayez une chance d'entrée. Ne faites pas, deux erreurs n'en rectifieront jamais une. Continuez simplement à vivre tel que vous êtes. Si vous êtes heureux ensemble, il se peut que vous n'ayez pas le bon compagnon. Je dirais cette seule chose, si vous n'avez pas le bon compagnon dans cette vie, ce ne sera pas le cas dans l'autre. Toutes les erreurs seront rectifiées. Tous les croyants nés de nouveau iront-ils dans l'enlèvement? Non, seulement le reste, non pas tous les croyants nés de nouveau. La Bible dit, et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et alors, ils furent ressuscités, et les brebis furent séparés des boucs. Tous ceux qui sont nés de nouveau n'iront pas dans, selon l'Écriture. Quelle est l'évidence qu'une personne est réellement remplie du Saint-Esprit? Jean 14, 26. Quand le Saint-Esprit sera venu, voyez-vous, il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous, il perfectionnera cela. Ce qui est fait de main d'homme ne le fera pas. Et il est la parole. Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il s'identifiera lui-même en vous avec l'Écriture. Et ceci est le signe véritable que le Saint-Esprit est en vous. Parce qu'il est la parole. Oh, regardez, qu'en serait-il si vous aviez parlé en langue? Je veux dire simplement vous demander ceci. Jésus a dit ce que ferait le Saint-Esprit lorsqu'il viendrait. Ainsi, qu'en serait-il si vous aviez parlé en langue, sautillé, crié, tout le reste, et qu'ensuite vous soyez venu à la parole, et qu'alors je vous parle du baptême de... et que je vous prouve par l'Écriture, comme je l'ai fait, que le baptême utilisant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit provient absolument d'une mauvaise compréhension de l'Écriture, et que personne n'a jamais été baptisé ainsi. Et qu'ensuite vous continuiez à rester attaché à cela, pourriez-vous me dire que le Saint-Esprit en vous ferait une chose pareille? Comment peut-il renier sa propre parole? Lorsque je vous montre ce qui est censé arriver dans ces jours-ci, comment le Fils de l'homme doit se révéler, et ce qu'il est censé faire, et tous ces passages de l'Écriture qui se sont accomplis maintenant, et qu'ensuite vous le voyez descendre et identifier cela, comment pouvez-vous continuer à vous cramponner à une dénomination et dire que vous êtes né de nouveau? Pourriez-vous arriver à comprendre cela? Pourrais-je dire à ma femme que je l'aime et avoir un rendez-vous avec une autre femme et courir à gauche et à droite et lui dire sincèrement que je l'aime? Pensez-vous que ce serait un véritable amour? Pourrait-elle me dire qu'elle m'aime et tandis que je suis au loin qu'elle s'en aille courir avec un autre homme? C'est exactement ce qu'Israël fit à... Vous savez ce que dit la Bible à ce sujet, et qu'en parlant d'Israël, Dieu dit, « Tu as écarté les jambes, et tu as invité chaque homme qui passait. Tu as joué le rôle d'une prostituée envers moi, et je vais te répudier, divorcer avec toi. » Exactement. Qu'est-ce que c'est? Vous commettez adultère contre votre propre corps. Et lorsqu'une femme s'en va vivre avec un autre homme, ou un homme avec une autre femme, alors qu'ils sont mariés, ils souillent leur propre chair. Et lorsqu'une personne se dit chrétienne et qu'elle nie catégoriquement que l'Écriture est juste, elle commet adultère contre le corps dont elle prétend faire partie.
Amen.
Voyez-vous? Ainsi, c'est une marque de l'Antichrist au point de séduire les élus si c'était possible. Frère Branham est juste pour une fillette de porter des pantalons et des shorts. Quel âge a-t-elle? Je vous laisse en juger par vous-même si vous êtes un chrétien. Une petite fille ou n'importe quel petit enfant, j'imagine, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Voyez-vous, une femme, il n'est pas dit une enfant. Or maintenant, faites comme vous voudrez quant à cela. Pour ma part, je ne vois rien de mal à ce qu'une toute petite fille de 4 ou 5 ans, pourtant, lorsqu'ils sont tout petits, vous savez ce que je veux dire, ils courent ça et là dans la cour. Si elle porte ce que vous appelez des pantalons ou quelque chose ainsi, et que c'est une petite fille, je ne vois rien de mal à cela. Peut-être, voyez-vous, je vous déclare simplement ce que dit la parole. C'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Où sommes-nous censés nous réunir? Vous avez dit de nous rassembler sous les trompettes. Je crois, cher ami, chère sœur, ou qui que vous soyez, que vous vous trompez à ce sujet. Je n'ai jamais dit de vous rassembler sous les trompettes. J'ai dit qu'Israël se rassemblait sous les trompettes, non pas l'épouse des nations. Non, non, les trompettes, le son des sept trompettes, servaient à rassembler Israël. Combien savent cela? De tous les endroits du... Oui, non pas le... Non, non, pas Israël. Ainsi, ce n'est pas... Nous ne nous rassemblons pas sous les trompettes avec... L'épouse ne le fait pas. Les trompettes viennent après la fête de Pentecôte, voyez-vous, et l'enlèvement vient, et cela n'est pas cette question maintenant. Frère Branham, si vous avez le temps, veuillez expliquer s'il vous plaît Matthieu 10:41. J'aimerais savoir ce qu'est une récompense de prophète. Eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète.
Amen.
Quiconque reçoit juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Est-ce exact? Et s'il veut savoir ce qu'est une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Voyez-vous, c'est une récompense. Il est votre ami. Comme pour la femme tsunamite, cela peut vous être utile une fois. Voyez-vous, ce fut le cas pour elle. Voyez-vous, observez les serviteurs de Dieu. Oh là là, maintenant nous sommes, il me faut vraiment terminer. Et ami, je n'y tiens pas du tout, mais regardez seulement ça, il y en a des centaines. Non, mais je sais, mais voyez-vous, j'apprécie que vous disiez cela, mais je pense à ces pauvres gens qui doivent rouler sur des centaines de kilomètres encore ce soir. Oh, il y en a tant ici. Frère Branham, je voudrais savoir tout ce qui concerne le millénium. Est-ce après le souper des noces ou est-ce sur la terre? Je ne comprends pas cela. Eh bien, frère ou sœur, il m'est moi-même difficile de le comprendre, mais la seule chose que je puisse dire est celle-ci, c'est que le souper des noces vient avant le millénium. Or, voyez-vous, quelqu'un, je sais qu'elle est ici dedans quelque part, me pose une question à ce sujet qui disait, « Frère Branham, vous avez tort à propos des 70 semaines de Daniel, il y aura encore 70 semaines. » Non, le Messie devait venir et prophétiser, et au milieu des 70 semaines, de la 70e semaine, qui fait 7 ans, il devait être retranché des vivants et offert un sacrifice. Combien se souviennent de cela? Très bien. Combien d'années alors Jésus le Messie prêcha-t-il? 3 ans et demi. Donc, il y a encore 3 ans et demi de déterminés. Et dans l'Apocalypse au chapitre 11, ces deux prophètes prophétisent pendant 1260 jours. 3 ans et demi sont encore promis à Israël lorsque l'épouse des nations sera partie. Combien comprennent cela maintenant? Voyez-vous? Très bien, très bien. ceci est un... Je tiens un snack bar et je sers en majorité des enfants de l'école secondaire. Depuis que je suis entré dans la lumière, j'ai enlevé la machine à sous et le jukebox. Les adolescents fument et ils veulent entendre du rock'n'roll à la radio. Je n'ouvre que 4 heures environ par jour. Personnellement, je ne suis ni pour la cigarette, ni pour la boisson, mais cette situation me tracasse. Vous savez, c'est un problème. Voyez-vous, la chose est que vous êtes... qu'il vous faut peut-être gagner votre vie. Mais savez-vous ce que cela me ferait? Cela me rendrait si nerveux que je ne pourrais pas. Il se peut que vous soyez capable de le supporter. Mais le fait de voir cette petite bande de Ricky, de Ricketta là-dedans, se comportant ainsi, me mettrait hors de moi. Voyez-vous, je vous dirais que si cela m'appartenait, je sais ce que je ferais. Je dirais, vous arrêtez cela ou vous sortez d'ici. Voyez-vous, je tiendrai un endroit correct ou je n'en tiendrai pas du tout. Mais vous, si vous devez le faire pour gagner votre vie, je ne veux pas manquer d'égard envers vous, frère ou sœur. Je sais que c'est dur de dire ces choses, mais cela, ce n'est pas juste, voyez-vous, parce que cela donne l'impression que... C'est comme la personne qui a dit ce matin, au sujet de nos sœurs qui portaient leurs robes si courtes, nos sœurs d'un certain âge, qu'elles étaient un mauvais exemple pour les jeunes filles. Je pense que c'est juste aussi, vous voyez, et j'en pense la même chose. Quand ils vous voient là-dedans, au milieu de toute cette fumée et ce chahut, et qu'ils connaissent votre témoignage, et de tous les jurons et les railleries qu'il y a dans le voisinage de ces petits-enfants, et qu'alors qu'ils se comportent ainsi, vous ne disiez rien à contre, c'est un mauvais point pour votre témoignage. Faites comme le Seigneur vous conduira. Je prie Dieu de vous guider dans la bonne direction. Si le fait de faire la queue pour entrer dans l'église va devenir seulement un souvenir, que va-t-il se produire si nous ne passons pas au travers de la tribulation? Faut-il que nous ayons quelques souffrances? Si nous ne devons pas voir... Voyez-vous, cette question est probablement celle-ci. J'essaie de me dépêcher. Je ne devrais pas faire cela. Je devrais les remettre à leur place, parce qu'il y a des points sur lesquels vous pourriez vous étendre une heure durant, voyez-vous, et les examiner de fond en comble. Mais je vais arrêter. Regardez, les gens veulent dire que, pensant que l'Église va rencontrer la tribulation, voyez-vous, elle ne le fera pas. Elle ne le peut pas, voyez-vous, parce qu'elle est déjà rachetée. Or, l'Église, les croyants de nom, comme Lot, passent au travers de la période de tribulation. Voyez-vous, elles sont sauvées comme au travers du feu. Noé, passant au travers de la période de tribulation, étant transporté au-dessus de celle-ci, puis il sortit avec Cam, qui pollua de nouveau la terre. Voyez-vous, Lot sortit, ses propres filles couchèrent avec lui, et eut des enfants de ses propres filles. Voyez-vous, mais Abraham produisit la semence royale, la semence de la promesse. Enoch partit pour la gloire dans l'enlèvement. Il alla simplement se promener et s'en alla à la maison. Il n'est jamais passé au travers de la période de tribulation. Vous voyez, vous y êtes. Elle ne passe pas par là. La Bible ne peut pas par un type. Et les types ne peuvent faillir, voyez-vous. Elle ne prédit pas que l'épouse, maintenant, l'Église, elle, passera au travers de la période de tribulation. Maintenant, les gens disent, qu'en est-il des saints du début? C'était le changement des dispensations. Ce fut sur la persécution. Si vous étiez ici pour entendre ces actes de l'Église, vous auriez pu voir comment ils entrèrent dans ces ténèbres. Elles devaient faire cela. Cela montre alors qu'ils devaient subir là cette persécution. Parce que chacun des actes de l'Église et toutes choses montraient qu'ils allaient en s'assombrissant toujours davantage. Jusqu'à ce que finalement ils en vinrent à renier complètement son nom et à prendre un autre nom par lequel ils vivaient. Mais ils étaient morts, Sardes. Il y eut Théatire et Sardes, puis vint Philadelphie, etc. Puis on arrive au temps où l'épouse, qui devait échapper à toute damnation, est appelée à sortir. Elle est estimée digne d'échapper à toute cette damnation et cette colère qui doit venir sur la terre, afin que vous soyez estimés dignes d'y échapper. Non pas de passer à travers cela, mais d'y échapper, voyez-vous. Est-ce que tout le monde comprend maintenant? L'Église, les tièdes, tout ce qui est en dehors de l'épouse, élu, traversera la période de tribulation. Ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, mais seulement l'épouse préordonnée, prédestinée et élue. Le choix même de Dieu. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire qui ils sont, mais je sais qu'ils vont être là parce que le Seigneur l'a dit. Voyez-vous? Ce sont ceux qui s'élèveront au-dessus de la tribulation. Mais le reste d'entre eux traversera la tribulation. Ils tomberont et tout sera tué avant le millénium. Alors les justes entreront dans le millénium pour y vivre 1000 ans. Après les 1000 ans, vient alors le jugement du grand trône blanc. Et les morts, à la fois justes et injustes, ressuscitent. Les livres sont ouverts et le livre de vie fut ouvert. Et les saints, la femme et le mari, s'assoient et jugent le monde. Et c'est à ce moment-là que s'accomplira cette parole, elle jugera toutes les nations avec une verge de fer. Toutes les nations se tiendront là devant lui, et les jugera avec une verge de fer. Il séparera les brebis des boucs, et dira aux boucs, retirez-vous de moi, et aux brebis, venez vous les bénis de mon père. Il y aura alors un camp des saints sur la surface de la terre. Satan est relâché de sa prison, elle va de nouveau faire la guerre aux saints, exactement comme il le fit premièrement dans la gloire. Alors Dieu fait descendre des cieux une pluie de feu et de soufre, et la terre entière s'enfuit comme elle est simplement consumée et détruite. Puis il n'y a plus de mer ni d'eau, il ne restera plus rien sur la terre. Cela jaillira et éclatera en éruption volcanique. Et la chose entière, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous souvenez-vous de cela? Et dans cette épouse, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et Dieu habitera avec eux, dans cette cité, en forme de pyramide, de 2200 km². Et au sommet de cette cité, il y aura une lumière. Amen. Oh, cette cité sur la montagne de Sion, bien que ne la connaissons pas, pourtant je l'aime. Je vous rencontrerai dans ces âges, quand j'atteindrai cette cité sur la colline. Sur le sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau, et la cité n'aura pas besoin de lumière, parce que l'agneau en est la lumière. Et au-dessus de l'agneau sera le Père, qui est le Logos, Dieu la grande lumière éternelle, qui brillera juste au-dessus du trône. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, il sera sur son propre trône. Et le Père planera au-dessus du Fils. Le Père et le Fils seront un. Pendant qu'ils parleront, j'exaucerai. Avant qu'ils puissent penser, je penserai pour eux. C'est vrai. Et Jésus remettra un âge parfait, parfait, au Dieu vivant parfait. Âge qu'il a racheté, qu'il remettra entre les mains du Père. Est-ce juste? Il le remettra à Dieu le Père, lequel est esprit, non un homme, mais esprit. Toute espèce de bonté réunie, c'est Dieu. Et en bonté, or tout ce qu'il y a de perverti et mauvais, c'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bien appartient à Dieu, tout ce qui est mal appartient, et alors Dieu se matérialisa dans un homme appelé Jésus-Christ, lequel était son fils. Ce fils donna sa vie afin qu'il puisse amener d'autres fils, pour que Dieu puisse devenir tangible, opérant tout en tous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Oh, frère, ce sera un vrai jour. Vous n'aurez pas à rouler depuis Birmingham pour venir entendre le message. Le message sera là avec nous, n'est-ce pas? Oh, ce sera un moment merveilleux, vraiment merveilleux. Nous attendons ce jour, que Dieu en hâte la venue. Cette grande cité qui se trouvera là, maintenant voyez-vous, ce ne sera pas, vous pensez, 2200 km de haut? C'est ce que la Bible dit. Toutefois, ce ne sera pas 2200 km à la verticale comme cela. Voyez-vous, nous avons une autre mesure géographique dont tous les côtés sont égaux. C'est la pyramide, voyez-vous. Et la cité aura probablement une inclinaison d'environ 60 degrés. Et si cela commence ainsi, que cela monte jusqu'à 2200 km de haut, pensez simplement à la hauteur que cela aura et au temps qu'il faudra pour y arriver. Vous saurez à peine que vous gravissez la montagne. Parce que 2200 km de haut, à 60 degrés, Cela fait que vous êtes juste à peu près comme ceci. Voyez-vous, et la cité se trouve entièrement sur cette montagne. Elle est aussi haute que longue et aussi longue que large. La hauteur, la profondeur et la largeur sont égales. Tous les murs sont égaux. Une pyramide a quatre côtés, et ces quatre côtés seront... Or, les murs autour de la cité auront environ 70 mètres de haut, 144 coudées, et chacun de ceux-ci est une pierre. Pensez seulement à cette cité, mes amis. Oh là là! Pourquoi sommes-nous assis ici où il fait chaud? Pourquoi faisons-nous ces choses? Pourquoi parcourons-nous de telles distances en voiture? Pourquoi peinons-nous ainsi? Chaque centimètre de la route en vaut la peine. Oh, les peines de la route ne sembleront rien lorsque j'arriverai au bout du chemin. C'est juste. Oh, quel merveilleux moment ce sera! Et là, Jésus s'assiera sur le trône, et de dessous le trône coulera le fleuve de la vie, ruisselant le long de ses quatre parois, formant de petites gorges et de petits bras, et descendant au travers de la cité. Il coulera ainsi au travers des rues, et de chaque côté se dresseront les arbres de vie, qui porteront ou changeront leurs fruits tous les 30 jours. Oh, quelle cité! Et souvenez-vous, Dieu le Créateur, qui a créé les cieux et la terre, est dans la gloire en ce moment même, en train de préparer cette cité. Abraham la chercha, il chercha sa demeure, il se sépara, il quitta sa demeure, il se sépara de tout ce qui lui était cher pour chercher. Pourquoi? Il était un prophète, et dans un prophète, il était rattaché à l'esprit, et une partie de l'esprit, et quelque chose lui dit en lui-même, il y a une cité, elle commence à la chercher. Il dit, je suis un pèlerin, un étranger, je cherche une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il savait que cette cité était quelque part. Oh là là! Et je crois que sur le sol même où il la chercha, précisément là en Palestine, c'est là qu'elle s'élèvera, parce qu'elle est sur la montagne de Sion. C'est là qu'elle se trouvera. Regardez jusqu'où elle s'étendra dans la mer, d'une mer à l'autre. Pensez à cette cité de 2200 kilomètres, située là sur la montagne du Seigneur. Oh, ce sera merveilleux. Le lion et l'agneau se coucheront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. L'ours sera gentil et le loup apprivoisé. Quel merveilleux temps ce sera. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas. Tout sera en paix et dans l'amour. Il n'y aura plus de vieillissement, plus de maladie, plus de mort. Amis, ceci n'est pas une histoire de Père Noël ou quelques mythes. C'est écrit dans la parole. Et dans la parole. Et jamais la parole n'a failli. Et de penser la promesse même de, non pas en arrière dans les jours de la Bible, mais dans ce jour-ci, le jour que Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas un seul iota de sa parole qui ait une fois failli. Oh, je suis destiné à cette cité. Je l'aime, ne l'aimez-vous pas?
Amen.
Non, maintenant, frères et sœurs, il est 21h20. Je sais que j'ai des amis ici qui viennent de tout en bas du Kentucky, et d'autres qui viennent de différentes parties du pays. Si vous voulez rester pour la nuit, je paierai votre chambre. Je vous ai dit que vous aviez un dîner qui vous attendait, et que je paierai pour le motel si vous désiriez rester. La seule chose que vous avez à faire est de le voir à l'arrière, et je le ferai certainement. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Je vous aime. Ce n'est pas mon intention de répondre à ces questions parfois d'une façon contraire. Si vous ne le croyez pas, c'est parfaitement en ordre. Je désire que vous m'aimiez quand même, parce que Dieu sait que je vous aime de cette façon-là. Je réponds seulement à ces questions au mieux de ma connaissance. Il se peut que je me sois trompé dans quelques-unes d'entre elles, amis, mais ce n'était pas volontaire. Si j'avais eu environ 6 à 8 questions, j'aurais pu m'arrêter sur chacune d'entre elles et les expliquer d'une manière approfondie, au lieu de les prendre rapidement comme je l'ai fait. J'en ai quelques-unes à propos de mariage et divorce. Je pensais répondre à quelques-unes d'entre elles. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres là-dedans. Mais j'ai quelques questions très importantes ici, très importantes. Je désire y répondre pour vous si je le peux. Maintenant, si vous habitez dans les environs, appelez Billy, mercredi. Je serai d'ici là, si je serai de retour, je prierai cette semaine. Mais j'ai une quantité d'entrevues privées. Oh, une pile à peu près comme ceci. Et j'en ai presque autant que cela, en Arizona, dont je devrais m'occuper un de ces jours, quand je le pourrai. Et ce sont des gens qui sont vraiment malades. Quelques-uns d'entre eux ont des problèmes, et ne savent simplement pas quoi faire. Des gens mariés qui ont des problèmes. Et quelques-unes de ces questions ici ont dû être changées en entrevues privées.
parce que je ne pouvais pas lire ouvertement ce que les gens disaient là-dedans à propos de leur mariage, etc. J'ai donc demandé à Billy d'aller voir qui c'était et de les appeler pour leur dire, nous allons simplement leur accorder notre vue, afin que je puisse m'entretenir avec eux de ces choses. Certaines sont très sérieuses et sont des questions auxquelles l'on devrait répondre. Je suis ici pour essayer de vous aider, parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Je réclame chacun d'entre vous. Je vous réclame ce soir. Je vous réclame tout le temps. Je vous réclame sans cesse. Et cela, en tant que mon frère et ma sœur. Vous êtes mes enfants. Je suis votre père dans l'Évangile. Non pas votre père comme il en serait d'un prêtre. Je suis votre père dans l'Évangile comme Paul le disait. Je vous ai engendré à Christ. Et maintenant, je vous fiance à Christ comme une vierge pure. Ne me laissez pas tomber. Ne me laissez pas tomber. Restez une vierge pure. Comment y arriverai-je, frère Branham? Restez exactement avec la parole. Vivez chaste et pure. N'ayez rien à faire avec les choses du monde. Si l'amour de celui-ci est dans votre cœur, dites, « Oh Jésus, je t'en prie, retire cela de moi. Je ne veux pas être ainsi. » Maintenant, je ne veux pas être une personne qui dit ceci simplement pour le dire. Je tiens à être un authentique croyant. Croyez Jésus-Christ et vivez pour lui chaque jour. Ne faites pas le mal. Souvent, je parle de la croyance calviniste. Or, ne pensez pas que cela vous rende libre de faire tout ce que vous désirez. Quelqu'un l'autre jour, je lui ai demandé, « Êtes-vous allé à l'église ?» Il répondit, « Je suis allé chasser. » La femme de cet homme va vers moi. Elle revenait de la buanderie le dimanche. Je lui dis, « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'église ?» Elle dit, « J'ai fait ma lessive. » Je dis, « Vous n'auriez pas dû faire cela. » « Eh bien, dit-elle, je ne suis pas une vieille légaliste. » Je dis, « Mais je pensais que vous étiez une chrétienne. » Voyez-vous, j'ajoutais, saviez-vous que vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un? Voyez-vous, je dis cela, eh bien, je crois ceci, je n'ai pas à faire ces choses-là, je ne suis pas une légaliste. Eh bien, mon frère, ma sœur, regardez un peu, Paul a dit, si le fait de manger de la viande met une pierre d'achoppement sur le chemin de mon frère, je ne mangerai plus de viande aussi longtemps que le monde existe. Et je pense que ce serait beaucoup mieux. Maintenant, vous direz, frère Branham, vous chassez, n'êtes-vous jamais allé à la chasse dimanche? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne cherche pas à me lancer des fleurs, mais toutefois, je ne suis pas un observateur du sabbat. Je crois que le Saint-Esprit est notre sabbat. Je crois cela, mais je crois que nous devrions honorer cette résurrection comme un mémorial. C'est un mémorial que si vous honorez un certain jour, honorez celui de la résurrection. Toutefois, il n'y a aucune loi indiquant de garder un certain jour, parce que vous entrez dans le sabbat de la paix, quand vous entrez en lui. J'ai ici dedans cette question à laquelle je répondrai de toute façon très bientôt, si le Seigneur le veut, au sujet de ce qu'est le jour du sabbat. Je l'expliquerai Dieu voulant. Maintenant remarquez, souvenez-vous de ceci, voyez-vous, lorsque j'étais un jeune garçon, j'habitais juste ici sur la route où Ash a vécu. J'avais à peu près 14 ans. Je chassais à la trappe pour gagner ma vie. La seule chose que je pouvais faire pour nous aider à avoir du pain à la maison était de capturer des moufettes, des rats musqués et des opossums. J'aime chasser à la trappe, et je devais le faire. J'allais à l'école sentant la moufette, et j'avais seulement un habit, et c'est tout ce que je pouvais porter. C'est tout ce que j'avais. Maman l'enlevait, le lavait, puis je le remettais. Or, c'est ainsi que je suis allé à l'école, quand j'étais petit. Mais alors que je me tenais là-haut un soir, je dis, j'ai des trappes de placer là-bas, autour de chez Webben, plus haut que cela. Je partais chaque matin environ 2 heures avec une lanterne pour aller faire le tour de ces trappes. Puis je revenais à temps pour aller à l'école. J'attrapais un lapin, on m'en donnait 15 cents. Avec cela, j'achetais une boîte de cartouches. Et peut-être qu'avec celle-ci, je pouvais tuer 3 ou 4 lapins. Lorsqu'il nous manquait de quoi faire des petits pains pour le souper et préparer du lapin et de la sauce, j'en vendais un et peut-être que je retirais assez pour acheter du pain ou de la farine pour faire de la sauce. Je ne sais pas si vous avez dû vivre comme cela ou non. J'installais de la rivière des lignes pour attraper les truites. J'allais chercher ces poissons et les vendais pour 10 cents la livre. J'installais mes lignes à truites. Je n'avais pas de bateau. Je nageais en me tenant un tronc d'arbre. J'entrais dans la rivière qui était toujours froide. Je déposais mon seau d'appât là sur le tronc d'arbre et je le poussais devant moi tout en nageant comme ceci, mon corps nu dans la rivière. Et je faisais le tour de... J'avais une ficelle sur mon côté pour attacher mes poissons. Il y avait des espèces de poissons-chats qui me touchaient la jambe de leur nageoire comme je m'en allais ainsi mettre mon appât. Mais regardez, plus d'une fois je suis entré dans cette rivière, vers 11 heures du soir, et j'ai enlevé chaque morceau d'appât de cette ligne. Si je ne pouvais en attraper suffisamment 6 jours, je ne voulais pas de celui qui serait venu le 7e jour. Je me suis tenu là, sous la pluie. Un soir, je peux encore me voir debout là, appuyé contre. J'étais un pêcheur, mais je me tenais là, appuyé contre le montant de la porte, comme ceci. Oh, il pleuvait à torrents. Il était presque 11 heures. Je dis, je serai en retard ce soir, mais je vais aller détendre chacune de ces trappes. Je ne l'attraperai pas le jour du sabbat. Je n'installerai pas ces trappes. Dieu honora cela.
Amen.
Je me souviens du temps où j'ai toujours désiré, toute ma vie j'ai désiré être chasseur. Mon grand-père en était un. Vous savez, ma grand-mère venait des réserves indiennes. Elle recevait une pension. J'aime vraiment la vie en plein air. Et je me souviens avoir toujours désiré, toute ma vie je désirais, je pensais que je pouvais gagner, si je pouvais gagner assez d'argent pour posséder un fusil de calibre 30-30, si jamais j'y arrivais, alors je me procurerais une série de trappes, j'irais dans les montagnes et je laisserais le monde à lui-même. Je pensais, si je prenais mon fusil de 22 et pratiquais pour être un bon tireur, peut-être qu'un jour quelques chasseurs voudraient de moi pour l'accompagner. Si j'arrive à être un assez bon tireur, il me laissera l'accompagner pour le protéger au besoin, je pourrais ainsi aller chasser. Maintenant, alors que je regarde, je peux voir accrochés à mes murs les meilleurs fusils que l'on puisse acheter, si bien que je peux en prêter aux gens pour aller à la chasse. Ils me laissent aller dans les montagnes prêcher, et certains des meilleurs guides que le monde porte m'emmènent à la chasse gratuitement. Grâce est un autre, combien le sang en est doux. Lorsque je... Même ce matin, un vieux chasseur de cerf est venu ici quelque part, ayant un Remington de 35. Je n'avais pas réellement besoin de ce fusil, mais il passa son bras autour de moi et dit qu'il se faisait trop vieux pour chasser. Je veux te donner mon fusil. Cela me faisait penser autant j'étais un jeune garçon. Oh, qu'est-ce que cela aurait été si j'avais pensé qu'un jour je posséderais un tel fusil. Et maintenant, je pense simplement à ces bons fusils accrochés là sur mon mur et aux endroits où je peux aller chasser. Je me souviens que je sortais et que les garçons achetaient des glaces. Et parfois, certains d'entre eux avaient une pièce de 5 cents de plus et m'en achetaient une. Oh, je ne pouvais pas leur en acheter une en retour. Je pensais, si je... Elles avaient parfois l'habitude d'acheter ces vieux, ce que nous appelons « Madlock Hamburgers ». Je ne sais pas si vous tous vous en souvenez ou non, mais certains d'entre vous, les anciens, vous vous le procuriez pour 5 cents. Il y avait beaucoup d'oignons frits avec cela. Oh, j'aime ça. Étant petit enfant, nous n'avions point seulement du pain de maïs et de la mélasse à manger. Vous savez ce que c'est. Lorsque quelqu'un m'achetait un de ces hamburgers, oh, je m'en léchais ensuite les doigts, c'était si bon. Et je pensais, oh, si je pouvais seulement lui acheter un hamburger. Et maintenant, je peux payer le souper à toute une église. Je me souviens de toutes ces choses, et d'où cela est-il venu? De la grâce de Dieu. Rien que j'ai fait moi-même. Je me souviens être descendu la rue ici, et avoir parlé à quelqu'un. Mon père, vous le savez tous, buvait. Il fabriquait du whisky, et cela, personne ne voulait avoir affaire avec moi. Je descends de la rue, essayer de parler aux gens. Je rencontre toujours ces gens aujourd'hui. J'essaie de parler à quelqu'un, et s'il n'y avait personne d'autre à qui parler, il se tenait là et disait, « Oui, voyez-vous, j'étais un branane. » Ainsi, cela m'attristait beaucoup. Je faisais alors demi-tour et m'en allais. Je pensais, « Je ne suis pas coupable de cela. Je n'ai pas fait ce que mon papa a fait. Je n'ai jamais bu de ma vie. Pourquoi ai-je à supporter cela ?» Et je disais à ma femme ici, il n'y a pas longtemps, « Maintenant, il me faut presque rester hors de la ville. » Dieu a été vraiment bon pour moi. Je pense à ce passage où il dit à Nathan, qui était assis là une fois, David lui dit, « Est-ce juste pour moi d'habiter dans une maison de cèdre, alors que l'arche de mon Dieu soit là dehors, et que l'arche de mon Dieu soit là dehors, recouverte d'une tente ?» Nathan le prophète dit, « David, fais tout ce qui est dans ton cœur, parce que Dieu est avec toi. » Le prophète fit une erreur, involontairement. Cette nuit-là, le Seigneur est venu vers le prophète et lui dit, « Va dire à mon serviteur David que je l'ai pris dans la bergerie, faisant paître ses brebis là-bas, et que je lui ai donné un nom comme celui des grands hommes qui sont sur la terre. » Il n'a pas dit qu'il lui donnait le plus grand nom, il a simplement donné un nom comme celui des grands hommes qui sont sur la terre. « J'ai fait toutes ces choses pour toi, David. J'ai retranché tes ennemis partout où tu es allé. Je me suis tenu à tes côtés. Je ne t'ai jamais fait défaut, et je ne te ferai pas défaut, mais je ne puis te laisser construire la cité. » Je pensais à cela, à la position que Dieu m'a fait atteindre, et au fait qu'il m'a fait connaître de grands hommes, et m'a donné de faire le tour du monde, et des gens de toutes les parties du monde, et des personnes malades me demandent d'aller prier pour eux, et désirent passer quelques minutes avec vous, alors qu'il y a quelques années seulement, ils détournaient la tête pour ne pas avoir à me regarder dans la rue. Et maintenant, les hommes d'affaires prospèrent à cause des gens que j'amène dans la ville et que je reçois ici, étant donné que ceux-ci vont manger et logent dans leurs établissements, motels, etc. Des gens qui, les gens ne m'aimaient pas du tout, personne n'avait besoin de moi. Et maintenant, avec l'aide de Dieu, je crois que je dirige l'épouse de Jésus-Christ.
Amen.
Oh, grâce étonnante, combien le sang en est doux. D'où cela provient-il? De mon éducation? Je n'en ai point. D'où cela provient-il? De ma personnalité? Je n'en ai point. Cela est-il venu de ma connaissance en théologie? Je n'en ai point. D'où cela est-il venu? De la grâce de Dieu qui m'a sauvé. C'est la grâce qui enseigne à mon cœur à craindre. C'est la grâce qui dissipe à mes craintes. Combien précieuse cette grâce est apparue à l'instant pour la première fois j'ai cru. À travers de nombreux dangers, peines et pièges, je suis déjà passé. C'est la grâce qui m'a conduit en sûreté jusqu'ici. C'est la grâce qui m'amènera à la maison. Et lorsque nous aurons été là, dans cette cité 10 000 ans, cité qui est plus brillante que le soleil, nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ses louanges que lorsque nous aurons commencé. Oh, combien j'aime Jésus, ce beau nom qui me sauva lorsque j'étais un pécheur, qui me guérit lorsque j'étais malade, qui me fait la promesse d'une demeure dans cette cité. Je possède une demeure dans ce rocher. Rien d'autre ne compte maintenant, si ce n'est de rassembler tous les enfants de Dieu et de dire, allons-y, l'heure est en train de sonner, c'est minuit, il est plus tard que nous le pensons. Prions. Seigneur Jésus, alors qu'un jour parfait se termine, comme si nous nous tenions au sommet de la montagne à regarder le soleil, lorsque les rayons rouges disparaissent derrière les grandes montagnes de l'ouest là-bas, et que le grand œil se ferme, lorsque les oiseaux se mettent en route vers leur nid, car la nuit approche, nous avons vu un autre grand jour spirituel, durant lequel le Saint-Esprit nous a aidés à répondre à ces questions. Maintenant, nous allons à nos nids, Seigneur. Prends soin de nous. Ne laisse rien nous frapper, Seigneur. Garde-nous des serpents de la nuit et du mal. Que Dieu soit près de nous à chaque instant, nous protégeant et nous aidant. Je te prie, Père Céleste, de bénir chacun de ceux qui ont été dans la réunion, ceux qui n'ont pas pu y être et tous ceux qui entendront les bandes. Que les questions ne soient pas trop sévères. Et si j'ai fait une erreur, Seigneur, tu connais mon cœur, ce n'était pas mon intention. Je te prie, ô Dieu, s'il y a quoi que ce soit de faux, de ne jamais, jamais laisser cela continuer ainsi. Que la bande puisse s'arrêter. Ne me laisse tromper personne, Seigneur. Laisse-moi être ton fidèle serviteur, parce que c'est là tout le désir de mon cœur. Soit que je vive ou que je meure, soit que je reste ou que je m'en aille, que je dorme ou que je sois réveillé lorsqu'il viendra. Peu m'importe, Père, que ta volonté soit faite. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'au dernier jour, il se tiendra sur cette terre. Et bien que les vers aient détruit ce corps, pourtant dans ma chair, je verrai Dieu. C'était ce qu'a dit le prophète Job, lorsqu'il vit la venue du Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, en tant que tes serviteurs, nous regardons l'avant et voyons ta venue. Ainsi, peu nous importe, Seigneur, quand, comment et où, nous désirons seulement te plaire. Nous sommes entre tes mains. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que le soleil soit monté. Accorde-le. Et alors nous marcherons tous vers Sion, cette cité où l'agneau est la lumière. Et Seigneur, voici mes chers petits-enfants que j'ai engendrés en toi au travers des liens de la Bible. Ils sont le fruit de cette parole. Ils m'aiment et je les aime. Et je sais que tu nous aimes tous. Nous te prions, Dieu, de nous imprégner à tel point de ta parole que nous ne pourrons voir que lui. Accorde-le, Seigneur, puissions-nous être si pleins de sa parole que l'Esprit puisse nous utiliser n'importe où, à n'importe quel endroit, pour manifester n'importe laquelle des paroles qu'il a promises. Veuille nous l'accorder à tous. Ici, sur cet auditoire, mon frère Jackson retourne maintenant là-bas, en Afrique du Sud. Accompagne-le, lui et sa femme. Sois avec eux, Seigneur. Guide-les pendant leur voyage. Voici frère Livel qui écrit et qui note chaque parole que je dis pour essayer de faire le livre. Ô Dieu, aide frère et sœur Veil. Et voici ses frères qui viennent d'Arkansas, et les frères Martin, et tous ses autres frères, je te prie d'être avec chacun d'entre eux. Sois avec frère Neville, frère Caps, frère Raddle, frère Jackson, avec tous, ô Dieu Jonathan. Ils sont venus de Georgie, d'Alabama et d'un bout à l'autre de l'État, et de toutes les parties du monde. Nous posons alors au chant, « Oh, ils viennent d'Est et d'Ouest, ils viennent de pays lointains, à la fête du roi, manger à sa table. » Il les a invités à se nourrir de lui-même. Que ses pèlerins sont bénis. Contemplons son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Oh Dieu, puissions-nous tellement briller comme des joyaux dans sa couronne, que les autres le voient et qu'ils brûlent de le servir. Accorde-le, Seigneur, protège-les tous le long de la route, bénis chacun, et Père, autant fixé par toi Je suis ton serviteur. Si tu désires que je continue ces questions la semaine prochaine ou que je m'occupe de ces entrevues, révèle-le-moi, Seigneur, et fais-le-moi savoir d'ici mercredi, de manière à ce que nous soyons au clair et que les gens puissent venir. Accorde-le, Père. Je demande cette bénédiction afin que tu nous aides et que tu te trouves avec nous à nouveau ici, lors de notre prochaine réunion. Sois avec Frère Neville et avec ces hommes qui apportent la parole là-bas au Texas, en Arkansas et à différents endroits. Sois simplement avec eux, Père, Frère Perry Green et tout le groupe là-bas. Sois simplement avec eux tous, Seigneur. Ce sont tes petits-enfants partout autour du monde. Ils attendent ta venue. Aide-nous, Père, nous te prions, comme nous nous remettons tous à toi. Dans le nom de Jésus, utilise-nous. Amen.
Amen.
J'aime ce chant, ils viennent d'Est et d'Ouest. Combien le connaissent? Je ne sais pas jusqu'à quel point je le connais, mais je pense que j'en connais au moins un verset. Vous pourrez peut-être le jouer, sœur. Je ne sais pas s'ils peuvent le chanter. Ils viennent d'Est et d'Ouest, ils viennent de lointain pays, à la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplons son saint visage, prions d'un éclat divin, participons de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Jésus revient bientôt, alors nos pères prions. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut. Aimez-vous cela? Essayons-le à nouveau. Ils viennent d'Est et d'Ouest, ils viennent de lointain pays, à la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplons son saint visage, brillons d'un éclat divin, participons de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Jésus revient bientôt, alors nos peines finiront. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut. Combien veut le rencontrer là-haut? Oh là là!
Oh,
Jésus revient bientôt. Fermez simplement les yeux. Imaginez que vous entendez le son de la trompette. Alors nos peines finirent. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut. Aimez-vous cela? Pat, sois courageux. L'aurore se lèvera pour toi un de ces matins. Je n'ai pas vu exactement cette année, mais cela paraissait bon. Amen. Tu as attendu longtemps, frère, mais cela reviendra. Et comme le pain sur la face des eaux, un jour tu le retrouveras. C'est juste. C'est bien. Oh, vous l'aimez? Ma foi regarde à toi. Toi, Agneau du Calvaire, Sauveur divin.
écoute ma prière. Enlève mes péchés, que jamais je ne m'égare loin de toi.
N'aimez-vous pas cela? Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin.
Vous souvenez-vous, il y a environ 33 ou 35 ans, lors d'une réunion dans une petite maison, nous tenions les uns les autres par la main. Je savais que vous en souviendrez. Oh, tendons la main maintenant et prenons celle de quelqu'un. Béni soit le lien qui joint nos cœurs dans cet amour. La Oh,
Aimez les uns les autres. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au pied de Jésus. Au revoir. Au N'est-il pas merveilleux? Vous aimez-vous les uns les autres? Tournez-vous et dites quelque chose à votre voisin. Dites Dieu vous bénisse frère, Dieu vous bénisse sœur. Ils sont en train de nous écouter ce soir là-bas, de l'autre côté de la rivière, sœur Wilson. Je peux voir le vieux frère Seward en train de marcher en tapant des mains. J'ai vu notre frère là-bas derrière, avec la barbe sur son visage. Levez les mains au louant Dieu. Je pense à frère Ryan et à l'habitude qu'il avait de s'asseoir juste là, dans l'ancien tabernacle, avec sa longue barbe comme cela. Il nous écoute ce soir de l'autre côté des portails de la gloire. Amen. Un cher vieux saint.
Alléluia.
N'est-il pas merveilleux?
Exaltez-moi du nom de Jésus. Au toi, enfant de tristesse. Te procurer la joie, prends-le partout où tu vas, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, toi du ciel, précieux nom, nom si doux. Revêt-toi du nom de Jésus.
Pourquoi?
Comme d'un puissant bouclier.
Qu'arrive-t-il?
Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, toi du ciel, précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, toi du ciel.